¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Salut tout le monde, nouvel épisode de Québec Nostalgie aujourd'hui et la petite fille de 8 ans en moi est tellement contente parce que j'ai reçu Véronique Cloutier ici pour parler de La Fureur, cette émission-là qui a marqué la télévision au Québec. On s'entend, là, ça a été une des plus grandes émissions de variété qu'on a jamais eues. Moi, ça a marqué mon enfance, ça me rappelle des soirées avec ma famille, avec mes amis, à chanter, à jouer avec eux. Donc là, aujourd'hui, d'avoir Véro pour parler avec moi de cette époque-là, de ses souvenirs. C'était une émission qui était live, hein, fait qu'il pouvait arriver n'importe quoi. On a parlé de ces imprévus-là, puis on a parlé aussi de l'arrière-scène. Hein. On n'avait pas les réseaux sociaux dans le temps, puis là, Véro, elle nous a amené à l'arrière-scène. On a pu savoir qu'est-ce qui se passait quand les caméras n'était pas allumé, entre les participants, les répétitions. Fait que c'est vraiment un behind the scene de cette émission-là qui nous a tellement marqués. Et là, en passant, la saison attire à sa fin. Il reste déjà seulement un épisode après l'épisode d'aujourd'hui. Fait que j'en profite tout de suite pour faire mes remerciements. Là, je veux pas oublier, mais je veux dire un gros merci à TVA+, à Toujours Mike, parce que ça fait déjà 3 saisons qu'on collabore ensemble, qui sont mes présentateurs officiels. Puis je suis tellement heureuse de ce lien de confiance-là. Puis comme animatrice aussi, c'est le fun de pouvoir présenter à chaque semaine des choses que j'aime pour vrai. Et là, ben, on va y aller tout de suite avec mes recommandations de la semaine, évidemment, pour Toujours Mike. Moi, je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur le menu pour enfants, parce que je le sais, il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui ont déjà une petite famille, puis on s'entend que Toujours Mike, c'est comme l'endroit parfait pour aller avec sa famille. Là, c'est pas stressant, vous avez pas peur de faire trop de bruit ou de déranger. Chez Toujours Mike, c'est pas ça du tout la vibe, au contraire, c'est tellement accueillant. Et il y a un menu pour enfants, et sur ce menu-là, il y a des plats qui font fureur auprès des petits. Il y a entre autres la pizza Bambino, il y a les filets de poulet, il y a des springs sauce bolognaise et il y a un mac and cheese qui a été développé en collaboration avec l'ITHQ. Donc, la sauce fromagée est à base de courge. Fait que c'est quand même une option un peu plus santé qu'un mac and cheese traditionnel. Fait que c'est le fun pour les tout-petits. Et côté dessert, tu sais, souvent dans les menus pour enfants, ce qu'on voit, c'est sundae, gâteau. Chez Toujours Max, il y a un cake pop pour les enfants, le cake pop confetti. Je l'avais recommandé cette saison-ci dans le podcast. Fait que c'est le fun pour les enfants d'avoir quelque chose d'un peu différent aussi sur leur menu. Autre fait que j'aime par rapport au menu pour enfants, c'est que pour chaque plat vendu, il y a 1 $ qui est remis à la Fondation Enfant Soleil. Donc, c'est le fun de savoir qu'en plus de ça, on fait une bonne action, tu sais. Et c'est valable pas juste quand vous allez en restaurant, mais aussi quand vous commandez chaque plat, il y a 1 $ qui est remis. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous commandez, n'oubliez pas que j'ai un code promo, Québec Nostalgie 15. Ça vous donne 15% de rabais sur toutes vos commandes dès que vous commandez. T'sais, autant pour emporter livraison par téléphone, ça fonctionne surtout dès que vous commandez pour 25 $ et plus. Donc, utilisez mon code promo parce que 15%, on s'entend que sa facture finale, ça fait quand même une différence. Le podcast est aussi possible grâce à TVA+. Puis là, aujourd'hui, vu qu'on est dans le thème musical, ben, je vous recommande un film où est-ce que la musique était super importante. Puis c'est le film Les Choristes. Ce film-là, je l'aime pour vrai, OK, la gang? C'est tellement, tellement bon. C'est touchant, c'est beau, la musique est bonne, les enfants sont tellement cute. Si vous n'avez pas déjà vu ce film-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je ne connais personne qui n'aime pas ce film-là. Moi, c'est dans ma liste des films feel good que je réécoute à chaque année. Dans le film, on est en 1949, dans un pensionnat pour garçons. Et il y a un nouveau surveillant qui arrive, il s'appelle Clément Mathieu. Et lui, pour amadouer sa classe, qui est formée d'élèves quand même vraiment difficiles, il va former une chorale. Et le jour où il va former cette chorale-là, l'ambiance va vraiment changer dans sa classe, mais même dans l'école aussi. Et il va surtout changer la vie d'un de ses élèves, il s'appelle Morange. Ils vont réaliser très rapidement que ce petit gars-là est surdoué, là. En chant, il a une voix, ça n'a pas de sens. Fait qu'allez voir ça sur TVA+, c'est disponible gratuitement, puis vous allez retrouver ça dans ma section Les classiques intemporels. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est là jusqu'au 16 décembre. Fait qu'il faut quand même faire vite pour l'écouter, mais vous allez pas regretter. Les chansons du film, en passant, je l'ai pas dit, mais sont tellement bonnes. Moi, c'est tout le temps dans ma playlist, comme quand mon téléphone joue de la musique aléatoire, très souvent, j'ai une chanson des choristes qui pop quelque part. C'est trop bon. Allez voir ça, le lien est en description. Aussi, L'hiver arrive très bientôt. Et moi, s'il y a une chose qui me rend vraiment nostalgique de mes hivers de jeunesse, c'est les glissades. Comme je me rappelle partir de chez nous avec ma grosse soucoupe pour aller glisser avec mes amis, avec ma famille, j'aimais tellement ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je m'associe avec les super glissades Mata. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je connaissais pas ça, parce que ça fait 40 ans que c'est l'endroit par excellence pour aller glisser avec sa famille, avec ses amis, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour aller glisser en passant. Pis si vous aimez les sensations fortes, il y a même une pente où vous pouvez glisser jusqu'à 100 km/h. Mais bon, si vous n'êtes pas fan de sensations fortes comme moi, il y a aussi plusieurs pistes qui sont douces puis même super sécuritaires si vous avez des enfants, entre autres. N'ayez pas peur, il y a des pistes vraiment adaptées pour les tout-petits. Puis ce qui est le fun, c'est que sur place, l'expérience, ça s'arrête pas juste aux glissades. T'sais, vous pouvez vraiment vous prévoir un week-end complet là-bas pour aller relaxer. T'sais, par exemple, vous pouvez aller relaxer à l'auberge là-bas ou même dans un condo au bord du lac, ou vous pouvez choisir aussi d'aller au spa et même d'aller manger un repas au resto sur place. C'est vraiment une super belle tradition à faire avec vos amis et votre famille. Tu sais, cet hiver, si vous cherchez justement une activité à faire en gang, allez là. Si vous habitez à Montréal, c'est à comme 1h30 d'ici. Fait que c'est le fun de faire un petit road trip, aller s'amuser, aller relaxer aussi avec sa gang, puis peut-être que ça va devenir votre nouvelle tradition hivernale. Qui sait? Les billets vont être en vente à partir du 10 décembre. Fait que c'est parfait. Si vous voulez commencer à prévoir votre temps des fêtes, pensez déjà à vous acheter des billets pour aller là. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous. Hein. J'ai tout le temps des petits codes promo. C'est Nostalgie Hiver 15. Ça vous donne 15% de rabais sur les glissades, mais aussi sur un forfait de 2 nuits avec glissade illimitée. On aime ça, ça fait la différence. Je vous ai mis le lien puis le code dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez prendre le temps de prévoir votre temps des fêtes, sachez que les informations vont toujours être là dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et j'espère que cette activité-là, ça va vous plaire puis que pour vrai, ça va devenir votre nouvelle tradition. Moi, en tout cas, je vais aller essayer ça cet hiver. Je connaissais pas ça. Vraiment contente. Et là, ben, on s'en va rejoindre Véro pour notre épisode spécial La Fureur. Salut Véro!
Allô!
Très, très contente que tu sois là.
Ben écoute, ça me fait plaisir parce que s'il y a un podcast qui a rapport avec La Fureur, c'est bien celui-là.
Je pense que c'est celui-là. Oui, effectivement. Puis pour vrai, t'es une des personnes qu'on m'a le plus demandé d'inviter au podcast. Puis moi, personnellement aussi, t'étais une invitée que je voulais beaucoup
ben,
savoir.
Ben, c'est gentil.
Parce que La Fureur, ça a tellement été, tu le sais, là, je t'apprends rien, ça a tellement été une émission importante. Moi, je considère que ça a été un des piliers dans ma vie, là, de mon amour pour la télé.
Ah oui, hein?
Parce que ça me rappelle des soirées tellement importantes avec ma famille, où est-ce que, déjà, c'était les seules soirées où est-ce que mes parents nous permettaient d'acheter des cochonneries.
Ben, c'est ça.
Tu sais, on avait le droit de la liqueur, on commandait de la pizza, puis on avait le droit de manger dans le salon.
Oui.
Pour écouter La Fureur. Mm-hmm. Puis je pense que c'est là aussi que mon
c'était
amour...
C'était les gars contre les filles.
Oui!
C'est ça.
Oui, puis tu sais, ça virait en... Hein? Soirée karaoké dans mon salon, là.
Exact.
T'sais, avec ma famille, on chantait, on jouait avec vous.
Ouais.
Littéralement, tous les salons au Québec.
Toi, tout ce que tu viens de décrire là, c'est le témoignage que je reçois encore à ce jour, constamment sur La Fureur. C'est tout ça, là. C'est les permissions spéciales, manger dans le salon, se coucher plus tard, danser en pyjama en mangeant des cochonneries.
Hey, oh, mon Dieu, oui,
chaque famille avait sa tradition, puis c'est probablement pour ça qu'on parle encore de l'émission aujourd'hui, puis qu'on nous la demande. T'sais, on nous demande de la ramener. Là. Moi, je la ramène pas juste pour me faire plaisir à moi.
Non, c'est
je la ramène parce que les gens la demandent. Puis c'est pour ça, je pense, parce que c'est relié à des souvenirs très, très forts puis très, très précieux de la famille puis
c'est
de l'enfance.
Intergénérationnel. Il y a des émissions qui n'ont pas marqué mes parents parce que c'est des émissions de ma génération, mais La Fureur, vous avez réussi à aller chercher tout le monde.
Ouais.
Je pense que c'est ça qui est impressionnant avec cette émission-là. Puis la notion de rendez-vous télévisuel, tu sais, qu'on a un peu perdu aujourd'hui.
Ce qu'on recherche encore aujourd'hui, là,
c'est
du mieux qu'on peut. Là,
ben,
il en reste quelques-uns, grands rendez-vous, mais sont plus rares.
C'est ça.
Puis les chiffres sont pas les mêmes non plus. Là,
exact.
De code d'écoute, t'sais.
C'est ça.
Oui.
Hey, j'ai tellement de questions pour toi aujourd'hui.
Oui.
Si tu savais le nombre de sections que j'ai, mais là, il faut que je me calme quand même.
faut
que je me calme. Mais mettons qu'on va au départ. Là. On est en 1998 et là, on t'offre d'animer ce nouveau projet-là. Comment t'appréhendes ça? Parce que sur papier, déjà, tu dois voir que le concept est intéressant, mais est-ce que tu t'attends à ce que ça va être gigantesque comme ça l'est devenu?
Bien, premièrement, non, on ne s'attendait pas à un tel succès. Là. Si tu m'avais dit à ce moment-là, moi, j'avais 23 ans à l'époque, j'étais tout petite, quand
c'est
j'y repense, là,
ouais.
C'est l'âge de ma fille, Delphine. à l'époque, si tu m'avais dit, oh mon Dieu, ça va être un succès monstre, puis tu vas, moi, ça a changé quelque chose dans ma carrière aussi. Tu sais, moi, je suis devenue vraiment une personnalité publique.
Ça a shifté,
on m'invitait partout dans les émissions, on m'invitait à faire la première page des magazines, j'avais des contrats de publicité. Tu sais, ma vie, elle a vraiment changé avec La Fureur. Si tu m'avais dit, ta vie va changer, ça va être une des émissions les plus marquantes de cette génération-là, ça va durer 10 ans. Parce que moi, j'ai fait 5 ans, mais Sébastien Benoît a fait un autre 5 ans par la suite. Je suis même devenue la productrice de l'émission par la suite.
Ça.
Si tu m'avais tout dit ça, je t'aurais pas cru. Puis tu sais, l'impact était tellement grand. Le samedi matin, dans les magasins Archambault à l'époque, là, tu sais, c'était encore... Les disquaires étaient très populaires à l'époque.
Les albums étaient complètement vendus.
Les gens achetaient encore des CD dans ce temps-là. Ben ils mettaient des présentoirs dans l'entrée avec les albums des chansons qui avaient été chantées la veille à La Fureur parce que les gens allaient se les procurer. Fait que l'impact, il était immense. Puis on ne croyait pas à ça au départ. En fait, on s'était pas imaginé que ça prendrait ces proportions-là. Puis, le concept me tentait, mais moi, c'est arrivé un peu vite dans ma vie, cette affaire-là, parce que j'animais un quiz à Radio-Canada qui s'appelait La tête de l'emploi. Ça faisait presque un an là, que j'étais en onde avec ce quiz-là, qui était une quotidienne, le quiz de l'heure du souper de l'époque.
Ouais.
Là, l'ancêtre des Silence on joue.
L'Union fait la force et compagnie.
L'Union fait la force et autres. Fait que c'était cette fameuse case horaire-là dont j'ai hérité pendant 2 ans. Puis, à l'époque, mon père était un producteur de télé. Très prospère, tu sais. Il y avait beaucoup de projets, puis lui avait vu La Fureur en France.
Ben,
il avait accroché.
Et moi, je savais pas que c'était un concept français.
Oui.
Jusqu'à tout récemment.
Ben non, tu savais pas.
Je te jure, je me sens un peu inculte, mais je suis sûre que je suis pas la seule.
Ben non, t'es pas la seule. C'est un show français.
Exactement.
Et c'est de la même équipe de conception que Les Enfants de la télé.
Wow!
Ouais.
On t'avait dit...
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Montrer le concept français avant que tu acceptes.
La Fureur,
ça, oui.
Non, on m'a expliqué l'émission.
Okay.
Je ne l'ai pas vraiment vue. Puis, écoute, à vrai dire, peut-être qu'on me l'avait montré, mais je n'ai aucun souvenir. T'sais, ça ne m'avait pas marqué parce que je trouve que le rendu français entre nous. Écoute, je sais que les podcasts maintenant sont accessibles partout dans le monde.
Oui.
Je fais attention à ce que je dis, mais. Moins notre style, mettons.
Mais c'est différent, on fait pas le même
style. Par rapport à la télévision québécoise, là,
ouais.
ce qu'on est capable de faire ici avec comme une fraction des moyens de là-bas, c'est quand même impressionnant. Donc, le show français m'avait pas épatée, mais j'aimais l'idée. Puis, je me suis lancée là-dedans avec énormément d'insouciance, puis
c'est
juste beaucoup de plaisir, tu sais.
Ben, c'est ça, ouais.
J'avais 23 ans, je réalisais pas vraiment à quel point c'était un gros plateau, puis que c'est quand même c'est un travail d'animation qui est pas si facile. Il est plus difficile qu'il en a l'air.
Ben, il se passe beaucoup de choses.
Il se passe beaucoup de choses en même temps.
Les danseurs, les joueurs, la foule.
Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps dans un bruit extrême. Puis il faut garder le plaisir, mais il faut mettre de la rigueur là-dedans parce qu'il y a quand même... Il y avait un enjeu, tu sais, que les artistes gagnent ou perdent, c'est pas important, mais c'était relié aux supporters. Donc, si l'équipe des filles gagnait, les filles repartaient avec un cadeau, puis on faisait un tirage parmi les filles. Puis même chose chez les gars. Fait que l'enjeu, il était là, tu sais. C'était quand même un jeu... On peut appeler ça une loterie, dans le fond. Puis la régie des loteries, ça s'appelle la régie. C'est pas pour rien, parce qu'il y a des règlements, puis il faut faire attention là, que les choses se passent dans les règles de l'art. Fait que il y avait un enjeu sérieux à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir l'air d'une maîtresse d'école à vouloir faire taire tout le monde tout le temps puis à les calmer. Mais en même temps, de garder le contrôle sur ton plateau, c'est donc un travail qui est plus difficile qu'il en a l'air.
Puis t'avais le challenge que ça soit live aussi. Parce que ce que j'ai lu, c'est qu'il y a eu plein d'autres moutures de La Fureur, pas juste au Québec.
Oui.
Mais au Québec, on est la seule qui l'a fait en direct.
Oui, puis même que les Français pensaient qu'on serait pas capable. Quand on a fait le pilote de La Fureur, parce que c'était la belle époque où on faisait de vrais pilotes dans notre vrai décor. Il y avait des moyens pour ça dans le temps. Là, je te ramène, en 98. Donc, on a fait un pilote peut-être 2-3 semaines avant d'entrer en onde pour pouvoir ajuster des choses puis peaufiner. Les Français sont venus au pilote.
Ah ouais.
Mais c'était, évidemment, le pilote n'était pas diffusé. Il n'a jamais été diffusé. C'était vraiment un test technique,
ça
dans le fond.
Ça s'est bien passé?
Ça a super bien été. Genre, ce soir-là, on s'est dit, je pense qu'on tient quoi. Mais les Français, eux autres, ils disaient, vous ne serez jamais capables de faire ça en direct. En hebdo, en plus, parce qu'eux autres, c'était une mensuelle. La fureur, là-bas, c'était une fois par mois, 2h30 de temps. Oh, les Français sont très forts sur les très, très longs shows de télé.
Ben oui.
Fait que là-bas, c'était 2h30, pas en direct. Puis ensuite, pour l'avoir animé moi-même en France,
ben oui, c'est
un
ça,
épisode,
t'as fait un spécial.
Ben, j'ai vu qu'il enregistre pendant 5-6 heures.
C'est ça.
Donc,
la magie était, aspère,
on proposait vraiment un tout autre format, là, tu sais. Puis on a acheté une Bible qui était le concept de l'émission avec quelques jeux. Mais évidemment, très rapidement, il a fallu qu'on invente nos propres jeux parce qu'on avait fait le tour de la Bible déjà.
Vous pouviez faire ça. Parce que tu sais, des fois, quand on achète un format, tu sais, il faut respecter le format tel quel, la compagnie à qui on achète ce format-là.
Ouais.
Mais vous avez eu cette liberté-là d'inventer des jeux.
Bien, en fait, on les a convaincus de le faire parce qu'on n'avait plus le choix, parce qu'on disait, là, il faut se réinventer d'une saison à l'autre.
Je
le show est populaire, c'est le fun, les gens en demandent plus. Puis là, bien, on n'a plus de jeux, fait qu'on peut-tu en ajouter? Puis j'imagine qu'ils servent dans les autres pays, ces jeux-là qu'on a créés ici, parce que la Bible était très restreinte. Parce que quand je suis allée animer La Fureur à Paris, un épisode seulement, c'était en 2000, moi, quand je suis arrivée là-bas, j'avais animé 83 fureurs. Puis Arthur, le concepteur et animateur, il en avait animé 34. Fait que j'ai lui, il me disait quoi faire, puis il était assez...
Mais on te parlait tout le temps dans l'oreille, c'est ça que j'ai lu.
C'est lui qui
c'était
me parlait
gossant.
Dans l'oreille, ben gossant.
Ah, c'est ça.
Il me disait tout quoi faire dans l'oreille. Puis j'avais juste... Puis moi, j'étais, tu sais, j'étais une jeune femme bien élevée, puis tout ça, puis j'étais reçue là-bas, puis tu sais, je voulais que ça se passe bien. Mais j'avais juste le goût de dire, « Hey! » Tu peux pas me dire quoi faire, je l'ai fait plus que toi. Genre, je possède ce show mieux que toi.
Oui, c'est ça.
On l'a amené plus loin, puis on le fait en direct. Fait que slack les directives
calmose.
Dans l'oreille, tu sais. Ouais, calmose un peu. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai été un peu comme...
Oh mon Dieu, ouais, puis ça a duré 6 heures. On dirait que je comprends pas comment tu fais pour garder la magie et l'énergie des participants.
On a fini, il était presque 3 heures du matin, puis ils ont pas d'animateur de foule.
Oh non!
C'est le régisseur de plateau, c'est le directeur de plateau
qui terrible.
Call les shots.
Non, non,
dit,
non.
Alors, on est en pause. OK, puis là, il fait un signe d'applaudir, mais lui, il y a d'autres choses à faire. Fait que
les gens sont brûlés aussi.
C'est sabotche un peu, tu sais. Puis les gens sont au bout des nerfs. Puis là-bas, c'est debout, en talons hauts, tout le long. Tu sais, comme il demande aux gens d'être comme dans un club parce que c'est ça le concept de base. À l'époque, là, il recrutait beaucoup les supporters dans les bars. Parce qu'ils voulaient des jeunes habillés pour clubber.
Qui vont danser.
Ça, en fait, c'est que le public, il se chixait, il venait à fureur.
Oui.
Puis après, quand ça finissait, il sortait dans les bars. Il allait souper, puis il allait dans un bar.
Ben oui.
C'était ça, le concept de base. Puis d'ailleurs, Arthur, l'animateur là-bas, quand il entrait sur le plateau, quand il était présenté là, au début de l'émission, c'était de la musique dance, là, puis c'était des danseuses habillées, pas beaucoup, tu sais. Puis nous, ben c'est ça, fallait respecter certaines règles qui venaient avec la Bible.
Ben c'est ça que je me demandais, ta fameuse danse au début de l'émission, ça, là, tu viens de me le confirmer, c'était dans la Bible. Donc, dans le concept français, il y avait ça aussi.
Dans le concept français, Arthur était présenté avec des danseuses. Lui, c'était toujours des filles qui l'entouraient. C'était, tu sais, c'était une autre époque.
C'était de l'époque,
puis,
c'est ça.
C'est la France aussi, c'était différent. Puis donc, c'était des filles qui l'entouraient. Puis les filles dansaient, mais lui, il se déhanchait un peu, puis il envoyait la main, tu sais. Et puis, donc, quand on a importé le concept, en fait, on s'est dit, je sais plus qui, mais quelqu'un dans l'équipe avait eu l'idée de créer un mouvement qu'on allait refaire chaque semaine et que le public pouvait faire en même temps que nous, puis qu'il allait pouvoir se rendre dans les salons, puis, tu sais, c'était vraiment une très bonne idée. C'est probablement mon père qui a pensé à cette affaire-là.
Puis toi, ce projet-là de danse, ça a bien passé? Tu sais, t'étais willing
Moi,
de
j'ai
faire
fait une... de la danse pendant super longtemps. J'adore danser. J'adore, tu sais, fait que j'étais all-in, là, on le fait, tu sais. Puis ensuite, quand Sébastien Benoît a pris la relève pour l'animation, ils ont changé le mouvement, donc il y avait son mouvement à lui, tu sais, c'était personnel. Je trouve que c'est une belle idée aussi. Puis c'est vrai que c'était repris. Les gens le faisaient en même temps que nous à la maison.
Ben oui, dans le salon,
je me le faisais faire à l'épicerie, je me le faisais faire dans la rue.
Est-ce que les gens t'arrêtaient pour que tu le fasses?
Oui, on me le demandait souvent.
Oh non.
On me le demande des fois encore.
Encore. Oh. Ben, c'est cute, ça montre que ça a marqué. Ben,
moi, ça me fait rire, là, ça ben me fait oui. plaisir, ça me dérange jamais, jamais.
Ben non.
Des fois, ça donne des situations loufoques. Là. T'sais, je l'ai déjà fait dans l'allée des soupes à l'épicerie. Ça, c'est drôle. Là. J'étais devant une canne de soupe Campbell, puis le gars, il est comme, fais-moi la fureur pour le fun. Puis là, je suis comme, là. Il dit, ouais, ouais. Puis je dis, t'as une canne de soupe? Ah oui, donc! Je l'ai fait, ça me fait des bonnes anecdotes, mais ça me dérange bon. Aucunement. Là.
Fait qu'il y avait la danse en début d'émission.
Oui.
Mais le cri de ralliement,
oui.
Ça, c'était-tu dans le concept français aussi?
Non, ça, c'est nous autres qui avons instauré ça. Québécois. Ben dans le concept français, il y avait un cri de ralliement,
ouais.
mais qui était des chansons existantes de leur répertoire
okay.
français. Fait que nous, au début, je pense que la saison 1, ouais. on n'avait pas de cri de ralliement original. On avait « Je lâche pas » de Corbeau pour les filles,
ouais.
puis on avait les « Boys » d'Éric Lapointe pour les gars. Fait que c'était ça, le cri de ralliement du départ. Puis je pense qu'à la saison 2, on s'est dit, et pourquoi on n'aurait pas notre propre chanson de ralliement
tellement.
Qu'on répéterait chaque semaine? Donc, la chanson que les gens retiennent le plus, c'est celle d'Éric Lapointe et France d'amour. Vous nous jouez du violon,
ben
c'est
oui.
celle-là. Ouais.
Ben oui.
Puis il y en a une autre après, de Richard Petit.
Hé, hey, les filles, ce soir, la fureur, oh, oui, vous oui. voulez la victoire, mais partez pas en peur. Attendez pas la question avant de vous garrocher sur le piton.
Hé, hey, les filles, ce soir, la fureur, nanana, 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 c'est nous autres qui serons les meilleurs. Nanana, nanana. Ça rappelle-tu?
100%.
C'est ça. Fait que ça, c'est Richard Petit qui avait composé ça. Okay. Fait qu'à un moment donné, on a fait quelques années avec le premier cri de ouais. ralliement. Puis des fois, c'est normal, là, quand une émission dure plusieurs années, on revampe certaines
ben
choses.
Oui.
Puis Richard était un joueur étoile de la fureur à l'époque. Il a même gagné le meilleur joueur, meilleur compteur une année. Je pense qu'il est le meilleur scoreur à ce jour.
J'avais lu Jean-Michel Dufault.
Bien, c'est lui et Richard.
Son proche, là.
Sont soit né à année, soit peut-être Richard en avant.
Ah ouais, hein?
Peut-être que Jean-Michel le dépasse pour la simple et bonne raison qu'il a commencé dès les débuts de la fureur à
c'est
venir.
C'est ça, il était venu plus souvent.
Alors que Richard est arrivé plus tard dans les joueurs réguliers.
Ah, c'est
peut-être juste ça, la différence. C'est une question de nombre de présences.
Mm.
Mais Richard était un très, très bon joueur. Donc, on lui avait demandé de composer le... Il faisait des albums à l'époque.
Mm.
Puis on lui avait demandé de composer une chanson de ralliement. Fait qu'on en a eu deux à travers les années.
Si on retourne à la première émission, donc on est en 1998. En fait, la première saison, je veux dire, parce que quand la fureur, ça a commencé, vous étiez à un rendez-vous estival.
Oui, les jeudis.
C'est un show d'été, les jeudis 20h.
Oui, c'était supposé d'être juste un show d'été.
C'est ça.
Oui, et puis après quelques semaines, rapidement, ils se sont aperçus il se passe vraiment quelque chose avec cette émission-là. Donc, la direction de Radio-Canada de l'époque avait tout de suite dit « Hey, on va vous faire une place dans Grille d'automne. »
C'est ça, je me demandais si c'était vous qui aviez demandé ça ou si c'était Radio-Can.
Pas du tout. Ils ont dit « Est-ce que ça vous tente de continuer? On va enchaîner avec une saison d'automne. »
C'est rare.
Récemment, c'est très, très, c'est très rare. Très rare. Ça se compte sur les doigts d'une main, le ouais. nombre de fois que c'est arrivé. Puis la dernière fois que c'est arrivé, si je ne me trompe pas, c'est « Je viens vers toi. »
Oh mon Dieu.
Qui était un show de printemps.
Ouais.
Qui a continué, puis qui a fait une saison d'automne par la suite, puis qui est resté en onde après en saison régulière.
Ouais.
Mais ça avait commencé au printemps, si je ne me trompe pas, l'émission de Marc Labrèche. Donc oui, La Fureur, c'est la direction de Radio-Canada qui a demandé ça, puis je me souviens qu'on était dérangés par le fait qu'ils nous mettent les vendredis, parce que le vendredi soir, à l'époque, c'était pas du tout un soir de télévision.
OK, bien c'est ça que je me demandais.
C'était pas un soir où les codes d'écoute étaient bonnes, mais ils nous disaient... Nos études, nos recherches nous disent que le bassin d'écoute, y est là.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
C'est juste qu'on leur présente rien qui les intéresse. C'est-à-dire les familles à la maison. Parce que, oui, les jeunes sortent le vendredi soir, tu sais, les gens plus âgés qui ont des grands-enfants, ils vont souper au restaurant peut-être, mais la tranche familiale, là, jeunes parents et...
Ils sortent pas, ils ont rien.
Ils sortent pas, là. Ils se cordent de la pizza en pyjama à la maison. Ils ont rien à regarder, puis c'est pour ça qu'il y a pas de bonne cote d'écoute. Fait qu'on a dit, ben OK. Mais moi, j'avais peur.
Mais
qu'on perde notre momentum puis notre succès. Puis finalement, on a fait...
Ben c'est ça que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, mettre une émission le vendredi soir, c'est un peu un kill. C'est dangereux de
mais
faire
après
ça.
La fin de la fureur, ben d'ailleurs, la fureur ne s'est pas terminée les vendredis. Ça a fini les samedis. Les années de Sébastien Benoît, ouais. Il y a eu un moment où ils ont changé de case horaire.
Est-ce que c'est parce que c'était plus assez populaire le vendredi?
Parce que c'était difficile les vendredis soirs, oui.
Mais je me demande qu'est-ce qui a shifté.
Il n'y a plus jamais eu les habitudes d'écoute des gens ont changé, ouais. Je ne sais pas. Tu sais, à travers les années en télévision, on voit ça, là, tu sais. Si je te ramène, il y a 30 ans, le dimanche soir, c'était pas un bon soir du tout de télévision. Puis quand moi, j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, donc début des années 90, mmh. Le jeudi soir, c'était pas un soir de télé. Je dirais mi-80, en fait. C'était le soir de l'épicerie. Parce que les gens recevaient leur paye le jeudi. Les gens étaient payés toutes les semaines, le jeudi. Puis le jeudi soir, ils allaient faire l'épicerie parce qu'ils venaient d'avoir leur paye. Fait qu'il y avait pas de gens qui regardaient la télé le jeudi parce que les gens avaient autre chose à faire de pratique fonctionnelle, ouais. Tu sais, pour leur vie de famille. Et est arrivé en onde dans ses comptes, suivi quelques années plus tard des filles de Caleb. Tout ça les jeudis. Puis c'est devenu un beaucoup plus gros soir de télé.
Un gros spot.
Et particulièrement de fiction. Puis après ça, ça a bougé au lundi. C'est devenu les gros lundi soir. Là. Ouais. Quand tu as une grosse guerre de deux fictions, c'est ouais. toujours le lundi. Donc, ça change souvent avec les modes, les époques, la façon de vivre de la société. Donc, nous, on a comme créé la case du vendredi soir. Puis, c'est encore une bonne case. Les chiffres ont baissé en télé, mais la part de marché est encore là. Regarde, le vendredi, il y a eu au suivant pendant longtemps.
Oui.
Il y a les petits annonces.
C'est vrai.
Ça finit bien la semaine. Il y a encore des choses le vendredi 7h, vendredi 8h, qui sont souvent des shows plus familiaux.
C'est ça.
Oui.
Ah, mais c'est intéressant parce que pour vrai, je me posais la question comment la fureur faisait pour driver autant de gens. Parce que quand je regardais les codes d'écoute, vous pouvez vous rendre jusqu'au million même. Moi, c'est ce que je disais plus que ça. Non, c'est ça.
Moi, mes grosses années, là, fou, où là. J'étais là, je te dirais peut-être la saison 2, 3, 4, là, ouais. Dans ce coin-là, là, on faisait le vendredi soir 1,5 régulièrement.
Un vendredi soir. Là.
Notre record de code d'écoute, à part au jour de l'an, parce qu'on a fait des jours de l'an aussi au début 2000, mais notre record de code d'écoute un vendredi soir, c'est l'émission Beach Party. On a fait un beach party la semaine de la relâche, genre. Parce que là, il neige, il fait froid, c'est plate, il n'y a rien à faire. On est tanné de la neige rendu au mois de fin février, début mars, on est tanné, là. On a hâte au printemps, fait qu'on a fait un beach party. Tout le monde en maillot de bain, il y avait du sable dans le studio. C'est notre record de code d'écoute, 1,6 million.
Aïe, aïe.
Je sais pas si c'est relié au fait qu'on avait Marie Chantal Toupin en maillot de bain, mais.
Ça a peut-être joué.
Ça a peut-être quelque chose à voir.
Ça a peut-être joué. C'est à quel moment? Parce que là, évidemment, tu sais, l'émission La Fureur, c'était gros, mais c'est devenu un phénomène social. Puis justement, c'est à quel moment vous l'avez réalisé, ça? C'est la seconde où Radio-Can vous a prolongé jusqu'à l'automne? Ou...
Bien, déjà là, saison? Ça donne un bon indice qu'il se passe quelque chose quand le diffuseur est aussi excité.
Exact.
À l'idée de garder un projet en onde, parce que pour eux autres, c'est du budget aussi. Là. Tu sais, La Fureur, c'est une émission de variété en direct. Ça coûte quand même cher. Là. Il y a beaucoup de gens. Là, tu sais, il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a des joueurs, des chanteurs qui viennent performer.
Ouais.
Il y avait quand même un gros décor, beaucoup de caméras. C'était une émission multicaméra, mais avec un nombre assez important de caméras. Donc... c'est une grosse dépense pour un diffuseur, fait que ça veut dire qu'il croyait énormément puis que les annonceurs étaient au rendez-vous. Hein, parce que l'aspect que les gens oublient des fois, c'est tout revient dans les mains des annonceurs. T'sais. Fait que s'il y a beaucoup de clients qui veulent dépenser de l'argent en publicité pendant cette émission-là, elle va rester que ça vous plaise ou non. Ouais, puis le jour qu'il n'y aura plus de gens qui vont vouloir investir dedans, bien, elle va disparaître des ondes que vous l'adoriez ou pas.
C'est ça.
Les ventes,
c'est
ça fait pas mal de tout.
Oui.
Donc là, déjà, on avait un indice qu'il se passait quelque chose.
Oui.
Mais le phénomène social, je te dirais que j'ai pas de souvenir précisément d'un moment, mais c'est venu avec... Ben,
quand les gens t'arrêtaient à l'épicerie
en fait,
pour danser
gros, ben,
dans
oui,
le rayon
ça,
des soupes.
Le fait que les gens appelaient pour faire l'émission, alors que avant que ça entre en onde... fallait convaincre les gens. Puis beaucoup de gens nous disaient, je vais attendre de voir de quoi ça a l'air.
Les artistes avaient peur de chanter en direct.
Ouais, puis les artistes disaient beaucoup, les joueurs disaient beaucoup, ah là, un karaoké, ça me sonne quétaine. un karaoké à TV. De quoi je vais avoir l'air? Je vais attendre de voir de quoi ça a l'air. Puis quelques semaines après l'entrée en onde de l'émission,
téléphone.
Ben là, ça se bousculait pour venir et jouer et chanter. Fait que là, ça, c'était plus un problème. Donc là, tu te dis, OK, le diffuseur triple, le public est au rendez-vous, l'industrie aime ça, puis tu, comme chanteur, tu voulais faire la fureur parce que tu vendais des disques après.
C'est ça.
Ça te positionnait comme un artiste qui a un succès, là, un artiste populaire, parce que les gens venaient chanter soit leur vieille tune, soit leur nouvelle chanson qui était un hit.
C'est ça, c'était une grosse vitrine.
Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'échange. Fait qu'on disait, ben viens chanter ton gros hit d'il y a 2 ans ou d'il y a 6 mois. Puis pour aller à la pause, tu feras un extrait de ta nouvelle chanson.
Ah, c'est ça.
Fait que c'était très bon pour l'industrie de la musique, puis c'était bon pour nous autres, tu sais. On avait toutes les grosses vedettes. Fait que ça, c'était un autre indice aussi qui se passait de quoi. C'était plein tout le temps. Il y avait 800 personnes en studio chaque vendredi soir. Il y avait des listes d'attente pour assister. Tu sais, les employés de Radio-Canada nous disaient, on n'a jamais vu ce studio-là plein.
Ah, je sais.
Moi, j'ai plein tout le temps.
J'ai travaillé longtemps comme ambassadrice dans une autre vie à Radio-Can, okay. Accueillir le public. D'ailleurs, j'accueillais le public sur votre beau programme très souvent.
Oh mon Dieu, merci à toi.
J'gérais souvent la ligne de tes fans au sous-sol. Je prenais les photos avec toi.
Ah oui.
Souvent, moi, je gérais la ligne.
Ah, ben c'est là que je t'ai vue, parce que je me demande tout le temps si, pourquoi ton visage m'est familier. Ben oui. Puis à un moment donné, je me dis, décroche, elle a un podcast, c'est là que tu l'as vu.
Okay. Oui, on se croisait souvent à Radio-Can. Oui, d'accord. J'avais la même coupe de cheveux que toi. Oui. Des fois, de dos, les gens, ils pensaient que j'étais toi.
Ah,
c'était drôle. Oui, c'était très drôle.
On a à peu près la même grandeur aussi.
Ben oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est drôle parce que quand j'étais ambassadrice, tout le monde, tu sais, les gens qui, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là, ils nous parlaient souvent de l'époque de la fureur, à quel point.
Les belles années de la fureur.
La vibe en studio, c'était pas comme toutes les autres choses.
Mais c'est inégalé à ce jour.
C'est ça.
Je te jure, là.
Exact.
Moi, j'ai continué de faire de la télé tout le temps après. J'en ai fait dans plein de contextes. J'en ai fait avec du public. J'en ai fait avec d'autres producteurs. C'est inégalé, tu sais.
C'est ça.
Il y a eu à un moment donné une émission qui s'appelait C'est ma toune. À Radio-Canada, avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'était le vendredi soir.
C'était un peu le même principe de la fureur. C'était deux équipes qui s'affrontaient. Puis c'était en studio avec des supporters. Vraiment, on avait pas mal repris
chercher
les codes de la fureur en espérant que ça fonctionne. C'était une production de c'était-tu KO ou 9e? En tout cas, je suis mêlée là, dans ces années-là. Ça devait être KO. Oui.
Je sais pas.
Je m'en rappelle même pas. Mais je sais que c'était dans mon environnement. Là, okay? C'était une production là, à laquelle j'avais contribué. Puis donc, j'étais bien consciente qu'on reprenait certains codes de la fureur, mais modernisés.
Ouais.
Puis il y avait une belle ambiance dans le studio, mais même pas proche de celle de la fureur.
C'est ça.
Puis les artistes qui viennent dans les nouvelles éditions disent... Je n'ai jamais vu une chose pareille.
Oh, c'est fou.
Quand le drum part, puis que là, Denis Fortin dit 10, 9, 8, je te le dis, j'ai des frissons.
Le poil qui lève ses bras. Là.
Je fais ça depuis 1998.
Oh, pense-y. C'est malade.
J'ai encore des frissons quand j'y pense. C'est pas battable, cette affaire-là. Puis les équipes techniques s'en souviennent aussi. Fait qu'on en parle souvent. Donc, jamais revu le 42 plein à 800 personnes
non,
après
c'est ça.
Fait que, tu sais, il y avait bien des indices. Puis après, quand on s'est mis à faire des produits dérivés,
ben oui.
Là, on vendait des jeux. On a vendu des colliers lumineux, des T-shirts.
Véro, merci. Merci. Ouais. Moi, je pensais que c'était un fever dream. C'était une des dernières questions que j'avais pour toi.
Ben non,
moi, quand j'étais jeune, je me rappelle de regarder les colliers. C'était des colliers en forme d'étoile, bleu et rouge. Hein,
c'est une étoile en plexi.
C'est ça.
Puis tu pluguais une petite... Il y avait comme une petite batterie, là. Tu pluguais quelque chose en dessous. Tu collais genre deux morceaux ensemble. Puis l'étoile s'illuminait. Puis c'était écrit la fureur dedans.
Moi, je pensais que j'avais halluciné ça. Ça fait des années que je cherche des archives, que je regarde sur Marketplace, que j'ai
dur à trouver.
J'ai jamais trouvé de photos.
J'en ai plus, moi.
Ben, c'est ça.
Non, il me reste des chandails, mais j'ai plus de... des chandails. Pas... Écrivez-moi pas, j'ai pas. C'est des...
Tes souvenirs?
C'est des différents. J'en ai un exemplaire de chaque dans une boîte. C'est en souvenir, là. Comme j'ai des chandails de match des étoiles de la fureur aussi. J'ai un trophée qu'on donnait dans, aux joueurs puis aux meilleures équipes. J'en ai gardé un en souvenir. T'sais, j'ai tout ça dans, des, dans un entrepôt.
Ben oui, faut que tu gardes ça. Ouais.
Mais oui, il y a eu les étoiles, les colliers étoiles, puis il y a eu les chandails. Il y a eu tout ça. Là. Mais c'est...
Pis y a ça, eu ça a été jeux. Un succès, là, les jeux. Vous avez... ouais. Moi, je me rappelle, tout le monde avait eu ça. Il y a un Noël, le premier ouais. Noël, ah, ouais. où c'était
les
sorti.
Les jeux, c'était capoté.
Tout le monde avait eu ça. Là. Ouais. Tout le monde avait joué dans le temps des fêtes. Mm-hmm. Tu te souviens-tu le nombre d'exemplaires que vous avez vendus de ça? Il y en a eu plusieurs jeux, là.
Ah,
mais...
beaucoup, là. Genre des 50 000, là. On vendait ça comme des albums là,
c'est
de
fou,
musique.
Hein?
Mais c'était des albums, en fait. C'était pour ceux qui n'ont pas connu les jeux. C'était un CD avec des chansons arrêtées.
Oui, c'est ça.
Fait qu'il y avait des trous dans les chansons. Puis on vendait des cartons avec les paroles.
C'était les tunes typiques qu'on entendait beaucoup à l'émission.
Oui, c'était
là.
Les tunes de l'émission de l'époque. Il y avait Provocante de Marjo puis des affaires de même.
Méchant pétant.
Puis il y avait les paroles. Méchant pétant. Oh mon Dieu! Méchant pétant. Méchant pétant. Méchant pétant. Oh mon Dieu!
Moi, ça, là, c'est la fureur instantanée. Moi, il y a des référents.
Oui.
Je pense instantanément. Mais
moi aussi,
fureur.
J'ai plein de chansons qui sont reliées directement à la c'est fureur. Là. Give It Up de Jacinthe.
Oui.
Etc. de Gabriel des Trois Maisons.
Ricky Martin.
Oui, Ricky Martin. Okoumé dans le temps.
Tellement.
Il y en a eu plein. Puis aussi des affaires comme... ça, c'était une époque de la fureur où les joueurs étaient... on leur faisait faire des lip-sync, on les faisait déguiser, on faisait des gros medley quand il y avait des émissions spéciales, match des étoiles, Noël, Halloween.
Oui.
On faisait des medley de gang. C'était un peu broche à foin, tout croche, mais c'était juste pour le plaisir.
Ah, ouais.
Puis, donc, j'ai des chansons aussi qui sont associées à ça. Là. Genre, je me souviens de voir Judith Bérard faire « Man, I feel like a woman ». Tania Contoyani qui fait « J-Lo ».
Oh, wow!
J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de ce genre-là, ouais.
Oh my God! Puis c'est fou, même, c'était big au point où vous étiez diffusé en simultané à la radio.
Oui.
Sur Cool, puis...
Oui, les gens nous écoutaient dans leur auto.
Exact.
Puis je me faisais beaucoup dire, mettons, je travaille dans une station-service le vendredi soir, je t'écoute dans mon boot, là, entre deux pompages d'essence, là, tu sais.
Ah oui, je rappelle, il y a un vendredi... On allait le manquer, on allait au restaurant, je pense, pour la fête à ma sœur. Puis là, moi, j'étais comme, oh non, je vais manquer la fureur. Fait que j'avais amené mon baladeur sur lequel je pognais la radio.
Tu t'écoutais.
Puis là, je faisais un compte-rendu à mes parents. Je suis comme, oh là, c'est Mario Pelcha qui chante.
Ah, c'est ça. Ouais, on a été diffusé à la radio presque toutes les années où je l'ai animé. Là.
Ouais,
on changeait de poste souvent selon mes partenariats puis où je travaillais. Mais c'était diffusé à la radio. Ouais.
Ah, c'est fou. J'ai envie que. Parce que, tu sais, mettons sur une émission comme Zénith que tu animes maintenant. On a un gros accès aux coulisses. T'sais, on a Chloé Deblois qui nous amène, puis on voit toutes les... Il y a plein de capsules où est-ce qu'on voit justement la chimie, le fun que vous avez en tant qu'équipe. Mais la fureur, on n'a pas eu ça parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Fait qu'on n'a jamais eu cette espèce d'accès-là. Qu'est-ce qui se passe en coulisses?
C'est vrai.
Comment les joueurs? Sont-ils stressés?
Oh mon Dieu,
que les gens est-ce que tu peux nous amener en coulisses, justement? Comment ça se passait avant qu'un show commence? Les gens étaient-tu ses nerfs ou c'était...
Écoute, c'est encore pareil aujourd'hui. Hein?
Ouais.
Depuis qu'on l'a refait, là, depuis 2019, là, qu'on refait des fureurs une fois par année, c'est... Pour moi, c'est comme si j'étais comme projetée en arrière. C'est comme si tu me mettais dans un slingshot puis que j'atterrissais en 2000.
C'est ça.
C'est pareil, sauf que tout le monde a vieilli. donc, comment ça se passe? En fait, moi, comme là, tu vois, mettons, je vais te prendre l'horaire là, de la fureur, là. La veille, le vendredi, parce que là, on est diffusé les samedis maintenant.
Ouais.
La veille, le vendredi, c'est les musiciens qui répètent toute la journée. Et aussi, les danseurs pour les numéros qui sont placés. Là-dedans, il y a des réponses chantées, il y a des medleys, il y a, tu sais, tout est axé encore sur la nostalgie. Là,
ouais.
Tu sais, on n'a pas vraiment...
Encore cette année, ça va être...
Ça va être pas mal de nostalgie encore, j'adore. Avec une petite touche actuelle. Mais je peux rien dire, parce que les perfos, c'est des réponses à des questions.
Oh, parfait!
Fait que je peux pas rien dire. Mais je peux te dire, donc, que le vendredi, le band répète, puis les danseurs viennent avec le metteur en scène, chorégraphe, Sam Chouinard, maintenant, puis ils répètent les numéros, ils font toute la mise en place.
Ouais.
Tu vas être ici, tu vas être là, pour telle chanson, tu vas monter sur ce podium-là, tatata, après ça, tu vas venir, tu vas l'amener ici, sur la pastille, tu sais. On fait toute la mise en place, on débug, puis moi, je répète tous les jeux.
Les transitions.
Avec le band,
ouais.
Parce qu'il faut qu'ils jouent les extraits, on fait défiler les paroles, tout ça. Fait qu'on joue avec ce qu'on appelle des crabes, c'est-à-dire des gens qui viennent faire les doublures des joueurs. Fait qu'ils ont un papier collé sur eux, puis c'est marqué qui ils jouent. Ils représentent qui.
Puis ils signent un contrat de ne pas dévoiler les réponses.
Ils n'ont pas le droit de dévoiler rien. C'est ça, ils signent ce qu'on appelle un release, là, puis ils s'engagent à respecter la confidentialité. Puis, bon. Alors, on fait tout ça le vendredi. Le samedi, les joueurs arrivent en début d'après-midi. Là, il y a une frénésie. Là.
C'est ça.
Là, il y a une folie. Là, ils sont contents, sont excités d'être là, sont durs à contenir. Très, très indisciplinés, les joueurs.
Indisciplinés.
Ah ouais. Puis là, c'est pire qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, les mêmes joueurs revenaient. Il y avait une grosse banque de joueurs qui revenaient régulièrement.
Là, c'était des amis.
Fait qu'on était excités, contents, mais il n'y avait pas le « je peux pas croire, je vais faire la fureur ». Il n'y avait pas ça, parce qu'ils étaient habitués de venir. Là, les joueurs, maintenant, il y a cette espèce d'incrédulité-là de
«
je peux pas croire ».
De rêve de jeunesse qui réalise.
Ouais. Fait que là, quand ils arrivent, ils sont partout. Ils sont all over the place. Ils sont complètement indisciplinés. Ça se montre leur kit. Qu'est-ce que t'en penses que j'ai apporté ces souliers-là puis ces souliers-là? Mais il me semble que ce serait plus beau que celui-là. Attends, je vais essayer voir. Je peux-tu danser de même? Ah non, je suis pas bien. Ah, moi, je pense que tu devrais mettre les autres. Les gars, venez voir! Tu sais, c'est ça, là. Ça court d'une loge à l'autre, ça crie, ça se fait des caucus, des meetings, on ferme la porte. Non, là, on a un meeting, ça révise. Me semble tantôt, j'ai entendu la choriste fredonner telle affaire. Tu penses-tu? Ah, là, il essaye de savoir. Oh c'est ça, là. God. C'est cette espèce d'ambiance de prématernelle.
Mais t'sais. Dans le temps, c'était plus discipliné. C'était des amis, puis...
Il y a toujours des joueurs qui ont essayé de savoir des affaires, pour ça, de tous les temps. Mais oui, il y avait moins d'indiscipline, parce que, ben, il l'avait fait la semaine passée ou deux semaines avant.
Puis les gens, ils étaient-tu compétitifs? Tu sentais-tu la compétition entre les gars et les filles à chaque semaine?
Ah oui. Ça, c'est quelque chose que les gens prennent à cœur énormément.
C'est ça, je me demandais.
Énormément.
Y a-tu des petites chicanes? Y a-tu des gens, tu sais, quand on joue à un jeu, il y en a des mauvais perdants des fois.
Non, y a pas de chicane.
C'est arrivé?
Non.
Non.
Y a pas eu de chicane. Il y a eu le fameux incident. Les fans de la Fureur sont au courant, je pense. Le Martin Matt qui avait trouvé une feuille de route de l'émission. C'était dans les débuts, quand on oubliait de protéger les infos. Donc Martin Matt avait trouvé une feuille de route dans la salle de maquillage avec toutes les réponses.
Oh,
fait que ce soir-là, il a donné une performance exceptionnelle. Puis il a fini au restaurant après, parce qu'à l'époque, on était tous jeunes, on n'avait pas d'enfants, personne, c'était une autre vie, tu sais. Fait que après la fureur, on allait toujours souper le vendredi soir, puis ensuite, on sortait dans un bar, parce qu'on était sur l'adrénaline.
Il y avait des afters.
Ah, il y avait des afters tout le temps, parce qu'on n'était pas couchables. Puis donc, Martin, Matt venait régulièrement à l'émission, puis il venait souper avec nous autres après, puis tout ça. Puis il avait fini par avouer qu'il avait triché. Fait que, puis, on y en avait qu'il y a voulu, plus entre guillemets, mais en rien. mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais rien qui a traîné. Donc, c'est ça, l'ambiance, ça ressemble à ça. Puis là, après, une fois que tout le monde est arrivé, là, il y a le briefing. Fait que là, il y a le gros meeting avec Eve Desiel, qui est responsable du contenu, des jeux, de la musique, tout ça. C'est productrice au contenu, si tu veux, de l'émission. Ouais. Elle les a toutes faites, là. Elle le fait de ma première jusqu'à la dernière de Sébastien. Et elle le fait encore depuis 2019, l'édition annuelle. Alors, Eve fait sa réunion. Elle réunit tous les joueurs. Là, elle donne toutes ses directives. Alors, il faut comprendre que telle chose. Là, c'est, mettons, le bouton. Quand il sonne, n'oubliez pas qu'il bloque. Si vous sonnez, il va être bloqué l'autre bord. Fait que l'équipe, tu sais, quand vous voyez que ça a sonné l'autre côté, ça donne rien. Fait c'est dessus 12 fois. Il sonnera plus. Il est bloqué pour vous. Fait que là, ça, faites pas ça. Ça fait du bruit. C'est agressant pour rien. Ça fait pas avancer le jeu. Tu sais, c'est ce genre de règlement. Après ça, elle explique chaque jeu auquel on va jouer avec les règlements.
Que ça soit clair,
c'est ça, pour que tout soit clair. Est-ce qu'il y a un droit de réplique? Est-ce qu'il n'y a pas de droit de réplique? Le face-à-face, c'est juste vous deux. Donc, toi, tu vas affronter toi.
Comment vous décidez comment vous placez? Qui vous allez mettre contre qui? Tu sais, les places, comment vous les décidez, ces fameuses places? Y a-t-il des petites règles?
Non, on le fait en équipe. On essaie de calibrer le niveau de jeu.
Ouais. Ça va être le fun que lui soit contre lui, puis lui contre elle. Puis...
Oui, quand on sait que des joueurs sont un petit peu moins forts. Il y en a dans chaque équipe, c'est normal. On va souvent les mettre face à face parce que sinon, c'est pas juste.
Sébastien Benoît, il est contre Élise Marquis.
Oui, exactement. Ça peut pas être contre personne d'autre. Ça, fait qu'on essaie de calibrer de cette manière-là, tout en tenant compte aussi de leur chimie. Parce qu'on veut que l'équipe s'élève. Fait que c'est comme un équilibre qui est quand même fragile parce que Tu veux mettre les amis ensemble parce qu'ils vont avoir une bonne complicité puis ça va être le fun pour eux autres. Mais en même temps, tu veux pas deux amis puis deux rejets à côté. Faut que tout le monde se mêle. Fait que souvent, on va mettre un lien dans le centre. Tu sais, quelqu'un qui connaît les deux ou quelqu'un qui est facile d'approche puis qui parle à tout le monde. Tu sais, on essaie d'équilibrer ça.
De dos puis tu vas être sûr tout le
monde. De cette manière-là. Ça, c'est une autre affaire que Eve va expliquer. Tu sais, essayez de pas tourner le dos, essayez de toujours rester ouvert pour que la caméra puisse bien vous capter. Ouais. Chanter en tout temps, que ce soit une bonne réponse, une mauvaise réponse. On s'amuse. Quand, une fois qu'on a dit bonne ou mauvaise réponse, on en sent l'air parce qu'il faut s'amuser. On est là pour chanter. La foule vous suit. Fait qu'oubliez pas d'être dedans tout le temps. On coupe sur vous pendant les perfos. Tu sais, oubliez pas de quoi vous avez l'air, de pas avoir l'air d'être tanné, de vous en foutre, de réfléchir au prochain jeu. Faut être dans le moment présent tout le temps. Fait qu'elle fait son gros briefing. Ensuite, c'est période de questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Tout ça. Ensuite, c'est répète. Là, on répète.
Les entrées.
On répète l'arrivée, on répète tout le début, on le fait 2-3 fois pour que tout soit bien rythmé. Puis après ça, on répète des faux jeux. Fait qu'on fait tous les jeux, mais avec des fausses chansons. Fait que pour le band, c'est le double du travail. Parce qu'eux autres, il faut qu'ils préparent puis qu'ils répètent tout le vrai show.
Une autre setlist.
Mais ils doivent aussi répéter le faux show. Non, c'est super compliqué. Fait que c'est pour souvent les réponses des... Puis Eve doit écrire un faux jeu.
Aïe! Est-ce que vous réutilisez ce faux jeu-là à chaque fois? Ben, dans le temps, du moins, là...
Oui. Là, sûrement qu'on va en reprendre un de l'année passée.
Que vous avez déjà
Tout le monde sait que c'est des faux jeux, là. Les joueurs, ils savent.
C'est ça.
Ouais.
Mais dans le temps, quand c'était à chaque semaine, c'était tout le temps le même faux jeu.
C'était souvent le... On avait une banque là, de faux jeux, puis on pigeait là-dedans. Là.
Okay.
Pour le band, ça devient plus facile sur une base hebdomadaire. Mais là, comme c'est une annuelle, il faut qu'il fasse tout en double. Ouais, fait que ça, c'est pas simple, mais on veut vraiment, vraiment garder toutes les surprises.
Ben oui.
Ouais, fait qu'on répète pas les perfos non plus. Fait qu'ils savent pas. Tu sais, dans le faux jeu, dans la répétition, mettons que dans la vraie vie, ça serait... je vais te dire quelque chose qui arrivera pas, là. OK, tu pèses puis tu dis... le soul, Isabelle Boulay. Mettons, tu dis ça. Là, moi, je dis, bonne réponse! Si dans la vraie vie, Isabelle Boulay arrive pour chanter le soul, à la répétition, je ne peux pas dire, bonne réponse! Bon, ben là, elle arriverait, là. On dit rien. Les joueurs, ils savent
ils pas. Ils savent même pas qu'il y a une performance.
Comment
qui va
ça
commencer.
Va se passer? Aïe. Fait que moi, je fais, bonne réponse! Là, on chante la chanson.
Mais en réalité, il y aurait une performance.
Puis on fait semblant, on va au pointage, nanana. Mais nous, toute l'équipe, on sait que dans la vraie vie, il va y avoir ça. T'sais? Fait que c'est compliqué.
Ah, c'est clair.
Mais j'y trouve bon. Je trouve tout le monde bon de ne pas s'échapper, de qu'il n'y ait pas trop de fuite. Là,
tellement.
Il n'y en a pas jusqu'à maintenant.
Parlons des jeux, justement. Là. Juste pour rafraîchir la mémoire des gens qui nous écoutent, là. Il y a la chanson Arrêtée. Parce que justement, il y a la chanson, puis là, il y a une petite pause, puis là, les joueurs doivent chanter.
Mm-hmm.
Il y a des histoires de Carmen.
Oui.
Où est-ce que tu nous racontais une histoire, il fallait déduire c'était quoi la chanson, qui était comme sous-entendue.
Oui.
La fausse aux chansons,
mm-hmm.
où est-ce qu'on mettait des écouteurs, puis là, il y avait un joueur par équipe qui devait aller chanter.
Oui.
Ça, je suis curieuse. Est-ce qu'il y avait des participants que c'était leur bête noire? Là? Ils avaient peur d'être la personne choisie pour aller changer.
Il y en a plein qui n'aiment pas ça. Oh. Oui, parce que tu as un peu l'air fou. Ça prend des joueurs qui n'ont pas peur du ridicule. Puis on essaie souvent de mettre... Tu sais, on ne mettra pas des chanteurs, mettons, pour porter des écouteurs parce qu'ils vont l'avoir tout de suite.
Ben oui.
T'sais, c'est trop facile de chanter. Parce que ce qui est dur, c'est de chanter la mélodie. Puis là, tu sais pas les mots, mais tu essaies à peu près. Fait que les plus drôles fausses aux chansons, c'est des joueurs qui sont souvent des comédiens, des humoristes, tout ça, qui font comme... Hey, c'est demain! Parti, oui! Ben, t'sais, parce que là, nous autres, on peut pas savoir ce que c'est.
Ça, vous
c'est impossible pour
avant.
Lui de rattraper la mélodie. Ben oui, on y pense.
Ben
t'sais.
Oui.
On hey, s'imagine, elle, ça lui, va donner ça va être quoi drôle. Avec lui puis elle, tu sais. On y va souvent comme ça.
C'est clair.
Ouais.
Oh wow. Fait que les gens, faut pas trop le dire fort s'ils ont peur d'y aller parce que...
Ouais. C'est peut-être pas c'est comme Fort Boyard. Fallait pas jamais dire de quoi on avait peur parce que sinon, c'était ceux qui nous mettaient ça. Je le sais, ça m'est arrivé.
C'était quoi, toi, qui t'es
Ils m'ont donné les tarentules.
Oh, oui. Ouais. Ça, c'est chiant.
Ouais. C'est parce que c'était pas ça, mon épreuve. Puis à l'hôtel, la veille, ils m'ont entendu dire à quelqu'un que j'avais peur des araignées. Fait qu'ils ont changé mon épreuve pour le tournage du lendemain.
Ça, c'est chiant.
Ouais, mais en même temps, ça donne un bon show.
Oh mon Dieu.
c'est pas grave.
Oui, c'est, ouais, c'est,
c'est sans conséquence.
Donc, c'est ça.
T'en gardes de bons souvenirs. Oui. Fait qu'il y a des joueurs qui, oui, qui ont peur de certaines choses. Ouais.
Ah.
Dans le jeu, il y a aussi le face-à-face.
Le face-à-face.
Il y a, je l'ai eu, tu joues plus.
Ça, j'adore ce jeu-là. Moi aussi, je... C'est quoi ton jeu préféré? Vous allez le faire là, cette année.
Ouais, je pense que mon jeu préféré, je pense que c'est Je l'ai eu, tu joues plus.
Oui, hein?
Oui, j'aime ça les voir sortir des joueurs puis de voir se débrouiller.
Ils sont stratégiques, là. Gros
joueurs. Ouais. C'est le fun. Oui. Souvent, c'est une opportunité pour des joueurs qu'on entend moins parce que souvent, c'est les joueurs étoiles qui vont prendre le pas. C'est pas pour mal faire, mais parce qu'ils veulent gagner.
Mm-hmm.
Fait qu'ils vont souvent voler le buzzer. Donc là, quand tu sors tes gros joueurs en début de partie, ben ça donne la chance à tout le monde de rayonner. Ouais. Fait que j'aime ça, ce jeu-là.
Mais justement, les invités qui revenaient souvent, bon, on avait Élise Marquis, Sébastien Benoît, Alex Perron, Linda Malo, Isabelle Brossard, Jean-Michel Dufault.
Geneviève Brouillette.
Geneviève Martin Brouillette.
Matt, ouais. Jean-René Dufort. Ça, c'est tous des joueurs là, de la première saison, là, la saison d'été. On avait Marc Derry qui venait souvent.
Il y en a qui revenaient, mais là, tu disais qu'il y avait plein de gens qui vous contactaient pour venir.
Oui.
Comment ça, il y en a qui revenaient, tu sais, est-ce que...
Bien, parce que c'était dans le concept aussi. C'est que ça crée deux choses, en fait. C'est un peu la même affaire qu'au Fantastique que je vis aujourd'hui. C'est que ça crée une cohésion entre les joueurs dans l'équipe parce qu'ils se connaissent, ils se voient régulièrement, ils connaissent leurs forces, tout ça. Ils développent une amitié, une complicité. Ils sont contents de se voir, ils sont contents de jouer ensemble. Ils se font des petites stratégies. Fait que ça, c'est bon pour l'esprit d'équipe. Puis ça, on le sent à l'écran. Puis l'autre affaire, c'est que ça développe l'attachement du téléspectateur.
C'est ça.
C'est que là, t'as tes joueurs préférés.
Ah, lui, il est bon.
Lui, ça il va est être bon
ce soir.
Ou bien l'inverse. Oh non, lui, il est pas d'un gars. Oh non, les gars vont gagner ce soir. Faut pas, tu sais. Fait que ça crée ça aussi.
Fait qu'il faisait exprès de ramener.
Alors
que
quand c'est un nouveau joueur que t'as jamais vu, même si c'est un comédien ou une comédienne que t'aimes beaucoup, tu sais pas ce qu'il y a dans le ventre pour la fureur. Fait que tu peux pas faire comme ah oui, non, tu sais. T'as pas d'opinion.
Fait que vous ramenez des gens qu'on connaissait pour qu'on s'y attache.
Exact.
Avec des petits nouveaux pour qu'on soit comme « Ah, j'ai hâte de voir si
cette personne va être bonne. » Régulièrement, on entrait des nouveaux dans la banque. Là, puis à un moment donné aussi, il y en a qui... Au départ, là, tout le monde était dans une autre étape de sa carrière. Je te parle de Martin Matt qui était là tout le temps. Ben, c'était pas le Martin d'aujourd'hui.
Ben non.
T'sais? Fait que Martin, au début, il venait beaucoup. Puis à un moment donné, ben on a renouvelé un peu le bassin. Puis lui, il était rendu ailleurs dans sa notoriété, dans sa carrière, quoi. Fait qu'il était plus à l'étape de venir jouer chaque semaine dans un show de musique, tu sais.
Puis bon, il y avait les joueurs, mais on en a parlé tantôt, les invités musicaux. Tu sais, la fureur, c'était justement une vitrine incroyable pour les artistes, autant les nouveaux que les gens qui étaient déjà bien établis.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des témoignages d'artistes qui t'ont dit que la fureur, ça avait complètement changé leur carrière? Tu sais, la seconde où ils sont venus, ça a tout changé pour eux.
Bien, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a deux qui me viennent en tête. C'est Gabriel des Trois Maisons.
Ouais.
Parce que Gabriel, sa première télé de toute sa carrière, c'était à la fureur.
Ah, oh, mon Dieu, ben oui, c'est ça.
Elle venait de lancer son premier album. Elle avait 16-17 ans, si je me trompe pas.
Je pense que c'était 16.
16, parce elle était très jeune. Oui,
son premier clip, c'était avec sa gang du secondaire.
Ben c'est ça.
Qu'elle aurait 16,
ouais. Donc, elle est venue performer à la télé à heure de grande écoute dans un show familial.
Je m'en souviens encore.
Ça a vraiment lancé sa carrière. Oui. L'autre, c'est Marie-Lou, je dirais, parce que...
Au spécial Céline.
Ben oui, parce qu'on a fait, en 2002, on a fait le lancement de l'album A New Day. C'était au centre Bell, qui était le centre Molson à l'époque.
Ouais.
Puis on a fait donc une grosse fureur là, avec Céline, puis avec plein de gens qui capotaient sur Céline.
Il y avait 15 000 personnes.
Il y avait 15 000 personnes. On a fait un gros medley des grands succès de Céline. Puis Céline, elle faisait les chansons de l'album A New Day. Puis Marie-Lou a ouvert cette fureur-là. Elle avait 9 ans.
Elle était tellement cute.
9 ans ou 10 ans?
Dans ces eaux-là.
Pas plus que ça. Entre 9 et 11, je te dirais.
Je la revois, sa petite robe bleue, mini, ses belles grosses lèvres, toutes petites, ses beaux petits cheveux, toutes bien peignées. Puis elle a chanté un extrait de « Ce n'était qu'un rêve », la première chanson de Céline, qui elle-même était jeune fille quand elle a chanté ça. Elle avait 12 ans, je pense, quand René Angélil l'a entendu chanter ça. Puis Marie-Lou, je pense, ça a été un game changer pour elle parce que c'est là que tout a décollé.
Elle a eu un contrat avec Stéphanie.
Elle a rencontré René Angélil. René l'a un peu pris sous son aile. Elle a eu un contrat de plusieurs albums avec Sony. Elle a été en France. Elle a chanté avec Garou. Elle, tu sais, comme, ça a vraiment... Gino Quilico, tout ça, ça a vraiment décollé pour elle à ce moment-là. Donc, je pense que ça a changé les choses. Bon, après, tu sais, on a beaucoup entendu... Je veux pas avoir l'air de manquer de sensibilité, là, parce que je le raconte comme des beaux souvenirs, mais pour elle, c'était à la fois des beaux souvenirs et des souvenirs difficiles parce qu'elle a vécu énormément de stress par rapport à sa carrière de chanteuse, puis c'est pour ça qu'elle a arrêté de chanter pendant très, très longtemps. Oui. Puis là, elle est de retour pour notre plus grand bonheur. Oui. Elle a guéri ça tranquillement, mais à l'époque, je pense qu'à l'époque, c'était le fun pour elle. T'sais, c'était encore le fun dans cette fenêtre-là.
C'est ça. Il y a Annie Broccoli aussi. Qui était venue, parce que moi, quand je l'ai reçue au podcast, elle nous en a parlé de la fureur qu'elle, juste dans sa vente de... Tu sais, elle sortait des cassettes.
Oui.
Ça avait tout changé, là.
Ah, peut-être, oui, pour la vitrine que ça lui donnait.
Exact.
Parce qu'Annie Broccoli, son premier album, il était sorti bien avant la fureur, là. La Coccinelle, c'était bien avant la fureur.
Oui, ça. Mais c'est quand elle avait sorti des DVD... en tout cas, nous, je me souviens plus c'est lequel, mais elle nous avait parlé d'une participation à la fureur qui avait
changé je ne veux plus rester en place, plus, mes photos se décrochent toutes seules.
Parce que j'ai des belles, pour les gens qui nous écoutent audio, allez voir sur YouTube parce qu'on a des belles photos de Véro à travers les années.
Oui, elle a pris la peine de faire un beau décor pour moi.
Ben oui, puis excuse-moi, on parlait d'Annie Broccoli, mais il n'y avait pas juste les performances qui aidaient les artistes. Au retour de pause, vous faisiez toujours un palmarès, le palmarès des albums. Puis je me suis toujours demandé pourquoi. C'était le fun, tu sais.
Bien, en fait, la vraie réponse, c'est que, tu sais, comme je t'ai dit au début de notre entretien, mon père était producteur de télé à l'époque, mais il était, lui, d'abord un producteur de musique. Il a commencé sa carrière comme producteur d'albums, de musique, puis il était gérant de chanteur aussi. Il a pris le virage télé beaucoup plus tard dans sa carrière, mais sa vraie passion première, c'était la musique. Puis la survie de l'industrie de la musique, de nos artistes de chez nous et tout ça, il avait vraiment ça à cœur. Donc, c'était très important pour lui. La fureur, c'était une émission de télé, oui, mais c'était un show musical. Donc, il fallait mettre de l'avant la musique de chez nous. Alors, il y avait un palmarès des ventes d'albums à chaque semaine à la fureur, c'est vrai, en retour de pause. Ben c'est ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'on avait dans un même épisode un vieux succès des années 70, mettons, avec un artiste qui revenait, qu'on voyait plus souvent, mais qui venait nous faire danser, chanter avec son succès. Et on avait aussi un artiste bien actuel à qui on faisait vendre des disques dans l'immédiat, tu sais. Il y avait les deux. Ça partait, je dirais, de l'affection pour l'industrie de la musique que mon père avait à cette époque-là. C'est pour ça qu'on le faisait. Ouais.
Puis c'est pour ça aussi, parce que quand l'émission s'est terminée, quand on était en 2007, on a dit que vous aviez en tout diffusé près de 2200 chansons différentes, dont 71% étaient de contenu francophone.
Mm-hmm. C'était très important pour nous déjà avant qu'on en parle à l'époque.
C'était pas juste une demande du diffuseur. Oh, ça venait de vous. Là.
Toujours été important pour nous. Puis j'ajouterais que même la demande est toujours venue du public aussi. Hein. On a l'impression, tu sais, là, c'est comme un sujet chaud puis c'est un enjeu de société bien important. Tu sais, on parle de la survie de notre langue, on parle de la survie de notre culture.
Le star système.
Les jeunes, on cherche comment intéresser les jeunes.
Les jeunes savent pas c'est qui Véronique Loutier.
Pas tous, mais une partie, effectivement. Tu sais. On parle énormément de ça, mais pour être bien honnête, il y a 25-30 ans, le public le demandait déjà de mettre de l'avant principalement du contenu franco et surtout québécois de chez nous. Ouais. Ça a toujours fait partie des préoccupations du public. Puis nous, c'en était une pour nous aussi à l'époque de la fureur. Ça l'est encore pour moi aujourd'hui, tu sais, depuis un an et demi, presque deux ans, mon émission de radio, c'est 100% franco. On joue que des chansons en français, principalement des chansons québécoises. Il y a quelques chansons de la francophonie, mais c'est plus rare. C'est surtout québécois.
Ouais.
Puis c'est très important pour moi. Puis ça me vient de ces années-là.
Ben, bravo, parce que c'est tellement important. Puis ce qui était le fun, c'est que justement, toute la culture québécoise, francophone, était tellement mise de l'avant. Justement, je trouvais même moi comme enfant, ça faisait que ça m'intéressait. Puis ça faisait que je connaissais autant les artistes qui m'étaient destinés, tu sais, comme une Gabrielle des Trois Maisons qui venait à la Fureur ou une Laurie.
Ouais.
Ça, c'était mes artistes Mixmania. Mais ça faisait aussi que j'apprenais à connaître les chansons de mes parents.
Ouais, tu pouvais savoir c'était qui Shirley Theroux.
Absolument.
Pouvais,
ouais, puis tu sais, les chanter du Offenbach. Les artistes qui venaient jouer, tu sais, j'allais connaître un Sébastien Benoît. Mais des fois, il y avait des invités.
Plus vieux.
Oui, plus vieux qui jouaient dans les séries que mes parents écoutaient. Fait que ouais. Ça faisait que je les connaissais. Fait que j'avais une super bonne connaissance du star system québécois, tu sais, oui. Puis de notre musique, puis de la musique de mes parents. Puis la nouvelle musique
mais
qui arrive.
Mais ce que tu viens de nommer là, c'était un des secrets du succès de la Fureur. Moi, je dis souvent, oui, c'est. Le glam, les paillettes, les couleurs, la lumière, ça attirait beaucoup les enfants.
Ouais.
La compétition, les gars contre les filles, c'est papa, fils, maman, fille.
Ouais.
On se nargue dans le salon, on se chicane, on veut gagner, on a nos joueurs préférés, ah, etc. Oui. Il y avait ça, mais il y avait beaucoup aussi réunir les générations.
C'est ça.
Qui semble être clairement un thème récurrent dans ma carrière.
Oui, c'est ça.
Des années plus tard, je fais Zénith, hein? Qui parle de génération aussi. Mais c'était ça.
Ouais.
Puis à l'époque, dans les réunions avec les diffuseurs, on ne parlait pas de co-viewing, de co-visionnement. Ça, c'est le nouveau terme à la mode depuis une dizaine d'années, je te dirais. Peut-être 10 ans, 15 ans, on parle beaucoup de co-viewing. Donc, les diffuseurs vont essayer d'acheter des projets qui vont réunir les générations devant une même télé. Chanteur masqué est un excellent exemple
tellement.
De ça. C'est toute la famille qui regarde Chanteur masqué. C'est toute la famille qui essaye de deviner qui est dedans. Mais les jeunes enfants qui ont 5 ans, ils n'ont aucune idée c'est qui Claudine Desrochers, c'est qui Claude Poirier, c'est qui même Rosalie Vaillancourt. Ils ont 5 ans, mais ils aiment la mascotte,
yeah,
par
c'est
exemple.
Ça. Ils aiment les couleurs, la performance,
ouais.
La musique.
Puis il y a un mélange aussi à Chanteur masqué de... gros succès internationaux en anglais. Fait qu'il y a une toune de Dua Lipa, mais il y a aussi une super belle chanson québécoise.
Ouais.
Ça fait découvrir différentes choses de différentes générations. C'était vraiment ça, le succès de Chanteur
c'est
masqué. Des fois, les gens font comme « Mais pourquoi le monde regarde ça? » Ben pour ça, tu sais. Puis c'est très efficace, là. Quoi qu'on en pense, là, le concept, il est-tu le fun ou il est abrutissant? C'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement efficace et bien fait. Tu sais? Fait que la Fureur, ça rejoignait exactement ces points-là aussi.
Tout le monde. Ouais.
Ouais.
T'as vraiment raison. Puis t'as raison de dire le visuel, c'est niaiseux, hein, mais les couleurs, moi, ça venait tout de suite me chercher. Puis le montage très rapide aussi, des danseurs, la foule, les joueurs, Véro, tu sais, comme...
Ben ça, c'est tout, une émission c'est multicaméra. Malade.
Gros party.
Puis on disait de la Fureur qu'elle était découpée comme un match de hockey.
Ah! C'est t'sais, vrai!
Les plans de caméra, ouais. Parce que c'est en direct, là, il n'y a pas de ouais. Montage. C'est tac, 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 tac. C'était rapide parce que c'est un match. C'est une joute.
Ouais.
Fait que c'était découpé visuellement, comme une joute.
Ah, oh, j'adore. Ouais. C'est tellement vrai.
C'est le fun, je te dis des choses que j'ai jamais dites ailleurs.
Ben, je suis contente. Yes, c'est le fun, ça.
Super. Bravo pour tes questions.
Je reviens aux performances musicales. Évidemment, vous avez eu toutes sortes d'artistes. Des artistes ici, mais aussi, là, on parlait beaucoup de francophones, mais vous avez eu des artistes d'ailleurs aussi. Y a-tu des artistes que vous avez réussi à aller chercher que c'est une fierté?
Ah, mon Dieu, qui on a eu? À part Ricky Martin et Enrique Iglesias. Oh, Axel Red. On a eu souvent des Patrick Bruel,
ouais.
Des Michel Fugain.
Laurie. Mickey Martin, c'était pour ton dernier épisode,
c'était
hein?
Ouais. C'était ma dernière Fureur en avril 2003 ouais. Au Centre Bell.
C'était-tu ta demande spéciale, ça?
Non, en fait, c'est que on savait qu'on allait faire le Centre Bell pour ma dernière. On faisait un gros show. Puis ça, on s'en vante un petit peu des fois parce qu'on a vendu presque tous les billets sans annoncer d'invité. Donc, quand on a annoncé Ricky Martin, on avait l'air de faire ça pour vendre plus de billets. Mais la vérité, c'est que c'était déjà pas mal plein. Parce que le phénomène de la Fureur était tellement fort.
Ben,
c'était pas moi qui
attirais
les gens.
Mais là, en plus, c'est la dernière
c'était
de l'émission.
Ben, c'est ça. Le contexte était... T'sais, les gens se doutaient qu'il y aurait des grosses surprises. C'était un show qui allait durer 1h30, je pense, 2h. C'était gigantesque comme événement. C'était, en fait, c'était un événement. Fait que tu voulais être là.
C'est ça.
Pour pas le manquer, tu voulais pas le faux mot.
Ouais,
une époque, une expression qu'on connaissait pas à l'époque, mais qu'on ressentait.
Ouais.
Puis ensuite, donc c'est ça, on a eu l'opportunité avec la compagnie 10 de Ricky Martin de l'avoir. Il venait faire de la promotion à Montréal parce qu'il partait en tournée. Puis il allait s'arrêter faire des spectacles à Montréal. Puis la compagnie 10 a dit, bien, on pourrait vous le donner pour la dernière de Véro.
Wow.
Puis là, ben, on trouvait qu'au Centre Bell, c'était tout indiqué d'avoir une vedette internationale.
Bien, tellement, là, surtout qu'il va mettre le party, littéralement. Oui,
c'est ça. Mais tu sais, dans le petit studio 42, on avait reçu Enrique Iglesias. C'était quand même...
C'est spécial.
Oui. Il était quand même... Il était déjà big, là.
Ouais.
C'était à l'époque des gros succès, là, « Be with you » puis tout ça, ouais. Là, tu sais. C'est quand même surprenant, mais ça marchait.
Y a-t-il des artistes que vous avez pas eu, mais que vous avez travaillé fort, là? Vous auriez aimé ça avoir,
j'ai pas de souvenir. C'est sûr que la réponse, c'est oui.
Ouais.
Mais j'ai pas d'exemple à te donner nécessairement sur ça. Mais on les a tous essayés, là, c'est
sûr. Ouais. Puis y a-t-il des perfos qui t'ont, toi, personnellement, beaucoup marqué, pas nécessairement international, là, des artistes d'ici... que tu as trouvé tellement belle ou touchante ou...
Oh, mon Dieu!
C'est tough, hein? Mais il y en a eu beaucoup, hein?
Il y avait... Des fois, on demandait aux artistes de faire des affaires un petit peu... Pas contre-emploi, mais différent, tu sais. Puis il y a souvent un numéro qui me revient en tête, c'est Marie-Mé qui avait fait du Christina Aguilera.
Oh.
Elle avait une belle... C'était dans les années de Sébastien, c'était pas moi. Moi, j'étais plus là. Mais je produisais l'émission à l'époque, puis elle avait une belle longue robe rouge, puis elle était assise sur le côté avec ses jambes. Elle avait l'air comme d'une sirène. Elle était toute glam. Elle avait l'air de faire une perfo aux Oscars.
Oh.
Puis elle chantait « Beautiful ».
Oh, wow.
C'est ça?
Oui, « Beautiful » de Christina, ben oui.
« I'm sorry for... » C'est ça? C'est pas ça, ça s'appelle pas « Beautiful ».
Non.
C'est pas ça.
Non, toi, ça...
C'est pas « I am beautiful ». C'est pas ça.
C'est pas celle-là?
Non.
Toi, ça doit être...
C'était... À la toune pour son père, là. Comment ça s'appelle? I'm sorry for blaming you for everything.
Oui, c'est là. Attends,
and I hurt myself by hurting you, blaming you.
Hurt.
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 C'est ça.
Hurt.
Merci. Je suis une très mauvaise chanteuse en plus. C'était Hurt.
Ouais.
De...
Ah, ouais. OK. Fait que c'était pas dans les débuts de Marie-Mé, là. Si c'était Hurt.
Oh non.
Elle était genre à son deuxième album.
Genre.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Ouais, parce que c'était les années de Sébastien. Fait que
c'est ça. Un petit peu plus tard, là.
Oui. Ouais, je dirais plus vers 2006.
Oh mon Dieu, je vais chercher des archives de ça, c'est sûr.
Oui. C'est sûr que ça existe quelque part, peut-être sur YouTube.
Ah oui, il y a plein de fureurs.
Mais c'était vraiment beau. Puis, tu sais, Marie-Mé, à l'époque, là, elle sortait de Star Academy. Oui. C'était une rockeuse, une fonceuse. Puis là, de la voir dans l'émotion, puis mettre sa voix de l'avant, c'était quand même. Différent
ouais.
De ce qu'elle faisait à l'époque. Puis elle a toujours eu cette générosité-là de faire ce genre d'affaires puis de relever ce genre de défi-là. Fait que ça, moi, ça m'avait marqué. Mais moi, je suis surtout marquée pas tant par les perfos des chanteurs, plus par les medleys de gang.
Ouais.
Tu sais, maintenant, on a demandé à Sébastien Benoît puis Jean-Michel Dufault de faire « Femme » de Nicole Croisille. Tu sais, là, « Une femme avec toi », ça dit-tu quelque chose?
Oui, mais...
Ça crie au bout, là. Mais les gars, on les avait... Une chose qu'on ferait plus aujourd'hui, on les avait déguisés en filles.
Oh, mon Dieu.
Puis là, ils chantaient « Une femme avec toi », genre main dans la main, comme s'ils étaient ensemble.
Oh, c'est beau.
C'était tellement drôle. Mais c'était niaiseux. Mais c'est le genre de lip-sync qui me marquait.
Ouais.
Anthony Cavana était venu, puis on avait fait un lip-sync sur Dancing Queen, mais lui, il avait décidé qu'il prenait des boas, tu sais, en plumes, là. Puis il faisait juste courir. Non, il courait. Il courait sur le plateau autour des chanteurs avec le boa qui traîne en arrière. De même, c'est super niaiseux, c'est super bébé.
C'est ça qu'on
mais
veut.
C'est ça qu'on voulait. On se disait, ah, le fun est pogné, puis moi, j'ai envie d'être dans cette gang-là. Puis ça aussi, c'est un des éléments qui faisait que ça marchait.
Bien, c'est les joies du live.
Oui. Puis c'est que dans ton salon, t'avais le goût d'être notre ami.
Oui.
T'avais le goût d'être dans notre équipe, dans notre gang. Puis ça, c'est très fort aussi. Le sentiment d'appartenance pour le téléspectateur, il est super important.
Tellement. Mais tu sais, le fait que vous faisiez jouer les gens derrière, tu sais, des fois, ils pouvaient souffler
oui.
La réponse.
Ben
t'sais.
Oui.
Fait qu'on sentait que le public, tu sais, même si on était à la maison.
Ouais.
T'sais, nous, on le criait dans le salon.
Oui, puis là, si la réponse venait des supporters,
oui.
Là, souvent, les joueurs montaient, « Yeah, les high-fives! »
C'est ça.
J'ai déjà vu des affaires, genre, lever une madame d'un verre, là, parce qu'elle venait de donner la réponse. T'sais, comme, c'est ça, c'est que la folie, le ouais. Désir de gagner prend le dessus, puis là, tout le monde embarque.
Ouais.
C'est tellement
mais on fun. Sentait que le plateau, il était c'est malléable.
J'ai hâte.
Tellement.
J'ai hâte à l'approcher.
J'ai tellement hâte, mon Sidéro. C'est ça, on trouvait que le... Moi, je trouvais que le plateau, il était un peu malléable. sais, il y avait des cams partout. Ouais. On dirait que tout pouvait arriver.
On peut aller où on veut.
C'est ça, tu sais, je me rappelle des joueurs là, qui montent sur leur comptoir. Tu sais, quand c'est la chanson arrêtée, je me rappelle, les joueurs, ils montaient, ils grimpaient. Puis là, ils essaient de déconcentrer, puis là, ils dansaient.
Mais
ennuie
des anciens comptoirs. Parce que depuis qu'on a ramené la fleur, on n'a plus les mêmes comptoirs. Évidemment, ils ont été détruits depuis longtemps. Puis avant, on avait des grands comptoirs en demi-lune, OK?
Oui.
Ce qui faisait que deux choses. Premièrement, ils étaient très, très grands. Fait qu'ils pouvaient monter dessus, tu pouvais marcher comme un catwalk, c'était pas dangereux ou presque. Puis les joueurs se voyaient un et l'autre pour jouer. Depuis qu'on est revenu, on n'est plus dans le même studio, bon, tout a changé. La configuration du studio ne nous permet plus d'avoir des aussi gros bureaux, tout ça. Tu vois, cette année, il y a 4 joueurs au lieu de 5.
Ouais.
Parce que les bureaux sont plus petits, puis ils sont arrondis au bout. Fait que t'as pas de grip pour monter dessus, tu sais, t'as pas un coin pour embarquer, ça glisse, fait que si t'essaies de monter dessus, tu vas comme tomber, fait que
ils vont trouver d'autres choses.
On peut plus monter, puis il y a du plexi aussi sur le top, fait que ça peut défoncer. Mais non, on peut plus. Même moi, mon bureau est pas pareil, mes cartons tiennent pas, mon, tu sais, j'ai un carton, ben d'abord j'ai les questions, mais j'ai aussi le carton de pointage là, que je tourne à la, au jeu final, puis c'est un enjeu parce que il glisse tout le long du show par terre. Ouais.
Imagine si tu le tournes.
Fait que là, on a, tu sais, comme, on a trouvé un manière. Puis moi, dans mon bureau, j'ai une télé pour voir. Ouais. Tu savais pas ça?
Non.
Dans mon bureau d'animation,
ouais,
j'ai un petit moniteur tout petit. Puis je peux juste baisser les yeux pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Ça, ça s'appelle le programme. Donnez-moi le programme. Ça veut dire montrez-moi ce qui est à la maison. Parce que pour voir d'abord, on a-tu vu tel joueur quand il a répondu ou c'est nécessaire que je répète qui a donné la bonne réponse? Parce que des fois, la caméra n'est pas rendue, le jeu va tellement vite. Fait que moi, je peux voir qui a répondu, qui n'a pas répondu, qui était avant, après. Je peux voir quand est-ce qu'on voit les joueurs chanter, je peux leur faire signe. Je peux voir qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu.
Hey, t'en gères les affaires?
Ouais, quand même. Ah! Fait que c'est important que moi, j'ai le programme dans mon bureau. Fait que ils ont fait un trou dans le bureau. Ils ont mis un petit moniteur. C'est un petit, là, je te dirais, c'est peut-être, mon Dieu, 15 cm par 15 cm. Là, une demi-règle, là.
Ouais,
puis il est dans le bureau. Puis il y a une petite vitre en plexi par-dessus. Fait que si je mets mon carton trop proche, je cache la télé. Puis il y a aussi une lumière de cachet parce qu'on est beau éclairé par en dessous. Fait qu'il y a comme un petit bâton de lumière. Je suis rétro-éclairée, là, tu sais.
Ah, tellement. Mais oui, pour pas avoir l'air d'un raton laveur avec juste des lumières, c'est le top.
C'est ça. En fait, rétro-éclairé, ça serait derrière. Donc, je suis éclairée par en dessous. Puis oui, pour que l'éclairage soit plus flatteur. Donc, tout ça est caché dans mon bureau avec mon petit plexi. Fait que j'ai plus même une place pour mes cartons. Fait que c'est un enjeu, mais on le gère. C'est pas vrai. Il y a pire que ça. Mais c'est plus, tout ça pour dire que c'est plus les mêmes bureaux puis que je suis très nostalgique des gros bureaux.
Mais oui, quand ils montaient là-dessus. Mais c'est ça qui était le fun. On dirait qu'on savait qu'il pouvait arriver n'importe quoi live puis c'était ça, les joies du direct. Il y en a-tu des imprévus qui sont arrivés live? T'sais, je sais que c'est connu, par exemple, dans l'épisode de Rock et Belles Oreilles, il y avait Chantal Franck qui s'était plantée. Mm-hmm. Plus gros imprévu, là, elle a dû partir parce qu'elle s'était
quittée au début de l'émission parce qu'elle s'est cassée une jambe. Ouais, donc
tu l'as remplacé dans un des jeux, je pense.
Dans un medley, en fait.
Ah.
Ouais, je peux pas remplacer dans les jeux parce que j'ai les réponses.
Ben non, c'est ça.
Mais j'avais remplacé dans le medley de chansons d'RBO.
Oh, t'en connaissais au moins.
Ben un, je connaissais toutes les chansons, puis deux, j'avais vu la répétition, puis je suis quelqu'un qui a une pas pire mémoire visuelle, j'apprends vite les chorégraphies, fait que je me suis glissée dans le numéro à la place de Chantal, puis ça a permis à tout le monde de faire le numéro comme si de rien n'était.
Ben oui.
Pauvre elle, ouais, c'était vraiment cassé une jambe.
Elle s'était enfargée dans des fils, dans un... On sait-tu dans quoi?
Dans le moniteur de son. En fait, c'est que on a moins ça aujourd'hui parce qu'il existe ce qui s'appelle des in-ear, donc des écouteurs que les chanteurs ont directement dans les oreilles. Ça ressemble à des petits AirPods, si tu veux. C'est relié à un fil qu'ils ont accroché dans le dos, là, sur une batterie. Puis ça leur permet de tout entendre, puis donc de chanter juste, tu sais. Mais avant, on avait ce qu'on appelait des wedges. Donc, c'est des gros, gros, gros moniteurs, tu sais, là, noirs, des haut-parleurs noirs, très larges, faites comme un peu demi-arrondis, là, tu sais. Il y en a encore par dans terre. Les spectacles, souvent, c'est au sol. Fait que les équipes de joueurs avaient chacun, il y avait deux wedges chaque bord, un à chaque extrémité de la table pour que les joueurs entendent, moi, quand je donne les directives, quand je dis bonne réponse, mauvaise réponse,
puis qui entendent les autres joueurs aussi qui, oui, qui répondent. Parce que c'est ça, pour entendre, parce qu'il y a tellement de bruit, le public fait tellement de bruit, ça crie, il y a la musique.
Faut qu'ils puissent,
c'est pour qu'ils entendent bien ce qui se passe. Donc, on mettait des wedges. Puis là, c'est plus comme ça. Je pense que c'est des petites, petites boîtes de son pour pas que personne s'enfarge dedans.
Oui, c'est ça.
Ça aussi, ça a changé. Moi, j'en ai un caché en dessous de mon bureau aussi, un haut-parleur.
Ah, parce que c'est sûr. Toi aussi, t'as la foule dans les oreilles.
Oui, sinon, j'entends rien.
Mais non, c'est ça.
Oui, donc...
Fait que ça, c'est un imprévu. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés... Tu sais, je sais pas, toi, ça t'est-tu arrivé de manquer la danse au début, mais en même temps, ça serait tellement pas grave, là.
Non, ça, c'est pas arrivé souvent, non, ce genre de choses-là. Tu sais, c'est un show qui a vraiment roulé rondement pendant toutes les années. On a eu à vivre avec des affaires du genre, on est en direct, on est un show de fun, de party, de plaisir, puis là, il y a eu les attentats du 11 septembre, puis là, nous autres, on a un show à faire, tu sais. Les tours étaient tombées le mardi matin. Puis on avait un show le vendredi soir en direct. Puis là, toute la semaine, on s'est dit, hey, on a-tu pas rapport, là? De... Puis F. Désiel disait, les enfants, ils ont rien demandé de ça. Mm. Les enfants, ils veulent encore rire, ils veulent encore chanter, danser, s'amuser.
On a peut-être besoin de ça.
C'est
aussi,
la joie, puis de se réunir, de se réunir autour de la musique, du plaisir, du jeu, c'est peut-être ça qui va nous aider à passer à travers. Parce que le reste, on ne peut rien faire. On n'a pas de contrôle sur l'état du monde, tu sais, le monde, la planète.
On peut juste faire notre job. Puis...
On peut juste essayer de faire du bien.
Oui, c'est ça.
Puis nous, comment on fait du bien dans la société, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est de faire la fureur. Puis elle avait dit, allons de l'avant, mais... Elle avait proposé que l'émission commence avec une vidéo préenregistrée de moi, toute seule, en coulisses, qui dit, cette semaine, il y a eu, tu sais, je me souviens pas des mots exacts, mais c'est Eve, elle écrit très bien, Eve écrit des textes, des chansons, des livres, tu sais, elle a vraiment une magnifique plume, très sensible. Puis Eve avait écrit un super beau texte émouvant dans lequel je disais que, hey, là, il s'est passé ça, puis là, on a le choix. On s'écroule tout le monde ensemble ou on se colle. Puis on sourit, puis on danse bien pendant une heure. Venez avec nous autres. Puis là, ça partait. 10, 9, 8. Oui. Puis ça s'était bien passé. Les gens avaient beaucoup écrit. Après, à l'époque, c'était des courriels. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les gens avaient beaucoup écrit pour dire hey, on avait besoin de ça. T'sais. Ça nous a fait du bien pendant une heure de parler d'autres choses. Puis pour les enfants, c'est des grands traumatismes. Tout le monde se rappelle où il était, puis la lourdeur, tu sais, puis les enfants, ça reste des enfants là, dans ces situations-là, fait que on était en paix avec l'idée de faire le show quand même. Fait qu'il arrivait ce genre de choses, tu sais, de contexte où ça devient pas évident. Je me souviens de ce soir-là où on avait répété l'émission comme d'habitude, puis on savait qu'on allait faire le petit mot préenregistré, puis là, à l'heure du souper, il y a quelqu'un qui dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui a remarqué les paroles de Disco Inferno? » On avait un artiste invité, Pierre Purple, qui s'appelle, qui est comme un roi du disco au Québec. Là, t'sais. Il venait faire Disco Inferno, un vieux succès des années 70. Puis là, il l'avait répété. Puis là, quelqu'un, en mangeant genre son poulet, dit « Avez-vous lu les paroles de Disco Inferno? » Les paroles défilaient au bas de l'écran, puis j'ai vraiment ressenti un immense malaise. Puis là, on se met à chanter « Burn, baby, burn, Disco Inferno ». OK, 100 stories high. Ça parle du party qui pogne au top d'un building, puis le feu prend, puis les gens se pitchent en bas.
Oh non.
Genre, ça dit « People out of control, the fire », genre « That's when my boogie started to explode. I heard somebody say burn, baby, burn. » Mais ça dit vraiment que le monde se pitch en bas, OK? J'ai plus toutes les paroles. Là, on a fait comme ben non, on peut pas chanter ça, là, en dansant, là, ça n'a aucun sens.
Ben non.
Fait que là, on est allé chercher Pierre, on est allé chercher Hélène Dallaire, qui était la chef musicale à l'époque. Puis là, on a fait un brainstorm rapide. Pierre, toi, tu connais toutes les
tunes. Il était quelle heure, là? C'était le jeudi ou le vendredi?
Vous savez? Oh non, c'était le vendredi. Là, c'était on le était vendredi, en direct à 8 heures.
Il était quelle heure à peu près?
6 heures. Là, Pierre, tu connais toutes les tunes. Qu'est-ce que tu peux chanter à la place qu'on pourrait faire puis que le band peut pogner vite?
Ouais.
Puis Hélène était très bonne aussi, elle connaissait bien des affaires. Puis beaucoup de musiciens étaient habitués de faire des bands de cover. Puis tout ça, tu sais, c'était des gens d'expérience qui avaient joué pas mal tout. Fait que lui, il a dit, je vais faire That's the Way I Like It de Casey and the Sunshine Band. Là, ils ont répété. Hélène, clavier, guitare, vite, vite. OK, parfait. Puis c'est ça qu'il a chanté. Puis ils ont réécrit les paroles en régie. Vite, 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 vite. Puis tout le monde s'est viré de bord. Puis ça a été ça, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de choses qui pouvaient arriver, tu sais.
Aïe, c'est ça, les joies du direct.
Ouais.
Aïe, tu disais que le public appelait dans ce temps-là.
Oui.
Pour réserver pour la fureur, il fallait appeler.
Oui, il fallait appeler.
Aïe, ça me fait rire, là.
Ouais,
déjà, il fallait qu'il laisse un message sur une boîte vocale.
Exactement.
Pour se faire rappeler.
Oui.
La liste d'attente était longue comment?
Je me souviens pas, était longue comment. Ça, on pourrait demander à Caroline Tremblay parce qu'elle travaillait déjà au public de la fureur à l'époque. Mois. Elle a fondé ensuite une compagnie de recrutement de public. Puis elle avait commencé avec nous à la fureur.
Oh, mon Dieu, mais...
ouais, elle recrutait dans les bars beaucoup au début parce que je te disais qu'on voulait du monde qui avait des looks de club. Bar, puis clubbeuse, puis tout ça. Elle recrutait beaucoup dans les bars, puis à un moment donné, elle s'est mise à gérer le public. Fait que je sais pas, la liste d'attente était de combien de temps, mais je sais qu'il y avait une liste d'attente. Puis c'est arrivé certains épisodes où on a dû refuser des gens à la porte. Parce que les gens qui bookent du public pour les shows de télé, ils ont un pourcentage, ils ont un buffer, parce qu'il y a toujours un pourcentage de gens qui se présentent pas.
Des no-shows.
Je sais plus c'est combien de pourcents, mais il faut qu'ils tiennent compte de ça, tu sais. Mais à la fureur, ça tenait pas ce chiffre-là, parce que tout le monde venait.
C'était tout le temps sold out.
Beau temps, mauvais temps. Fait que c'est arrivé qu'on refuse des gens à la porte. Tes décor. Petits collants, ils veulent
j'ai
pas.
Tellement
là.
Mis dans ton collant.
Ouais, fait que ça, c'est arrivé souvent. Il y a eu une émeute.
Arrête.
Quand Alan Théo est venu à la fureur, il y a eu une émeute. Ouais, l'ambulance est venue.
Mais voyons donc.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Quoi? C'est...
Moi, après l'émission, tu te souviens, tu as déjà fait ce travail-là. Mais après l'émission, je sortais toujours voir le public pour photos, autographes, tout ça. Je l'ai fait chaque émission que j'ai animée de toute ma carrière. Puis, donc, je sortais après. Mais là, cette fois-là, c'était Alan Théo que le monde voulait voir. Là. C'était pas moi. Fait que moi, je suis sortie faire mes photos normalement. Puis là, les gens réclamaient Alan Théo. Puis il y avait beaucoup plus de gens que d'habitude.
Puis lui, y avait-tu prévu de sortir, rencontrer les gens?
Bon, on lui a demandé, puis il était à l'aise avec ça. C'est juste que les gens qui l'attendaient se sont comme énervés. Puis là, ça crée vraiment une commotion. Et il y a eu une émeute. Donc, les gens se poussaient. Les gens... Écoute, ils étaient sur le bord de se piler dessus, là. Tu sais, en anglais, un riot, là.
Oui.
Il y a eu un riot.
Dans l'accueil de l'ancienne
tour. Dans l'entrée de l'ancienne tour de Radio-Canada.
Oh, mon Dieu.
C'était la folie. Tellement que là, ils nous ont déplacés. Parce que moi, je faisais ça... Je montais les marches de 42, je faisais ça en haut des marches.
Ouais.
Ils me mettaient une file, là, j'avais une table, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire qui prenait des photos. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de selfie. Fait que si tu avais ton appareil photo, je prenais une photo avec toi, mais sinon, les gens faisaient signer des choses. Ils faisaient signer leur jeu de la fureur, ils faisaient signer leur chandail, parce qu'il n'y avait pas de selfie. Fait que ils me mettaient une table pour que je puisse signer. T'sais, c'était à ça que ça servait, les rencontres après, là. Mais là, c'était pas assez pour accueillir tout le monde qui voulait voir Alan Théo. Fait qu'ils nous ont amenés dans une salle, la salle Jean Després, que t'as connue. Ils nous amenaient... Là, ils ont dit aux gens, venez tout ici, puis Alan Théo va venir ici. Mais là, on va vous demander de rester calme, de faire une file. Mais ça a dégénéré. Puis quand il est arrivé, les gens... C'était des filles. Les filles sont devenues... Puis des filles, genre, entre 7 et 25 ans. Là. Les filles sont devenues complètement folles. Puis là, il y a une fille qui a eu une chute de pression.
Voyons.
Elle a perdu connaissance. Puis là, tu sais, il y avait un protocole de sécurité à Radio-Canada. Il faut tout arrêter, il faut évacuer tout le monde, il faut faire venir l'ambulance. Elle ne pouvait pas juste se réveiller puis s'en aller chez eux. T'sais, ils sont responsables. C'est arrivé sur les lieux de la société d'État. Fait que là, il faut attendre. Il y a un protocole à respecter. Mmh. Fait que ça a fini comme en queue de poisson. Puis Alan Théo est reparti. Puis la fille, c'était une chute de pression. C'était rien de grave, là, tu sais, mais il fallait vraiment qu'il s'assure qu'elle était correcte et tout ça. Et tout ça était par l'énervement. L'émotion trop forte de voir Alan Théo, qui était... Il chantait des succès à l'époque, là, tu sais, c'était Lola, là, c'était l'époque Lola. De Lola.
Oublie tout, ne rêve pas.
Tu sais, c'était ce temps-là. Et il était très beau. Fait que les jeunes filles capotaient dessus.
Puis moi, on le trouvait beau.
Mais c'est ça. Fait que le classique, là, émotion trop forte, chute de pression, boum, d'un pomme. Tu sais.
Laisse tomber à l'eau.
Ouais.
Colline. Il y a eu beaucoup d'émissions spéciales comme ça qui ont fait triper les gens.
Oui.
Tu sais, pour en nommer quelques-unes, il y a eu la fureur de la francophonie.
Oui.
À Ottawa, le spécial Noël, la mini-fureur, spécial du jour de l'an, spécial en blanc. Et il y a eu, bien sûr, le spécial de Céline.
Oui.
Qui a marqué tout le monde.
Oui. Et toi, moi aussi.
Ben j'imagine, c'est ça. C'est oui, quoi
c'est
le
dans
spécial
mes beaux moments de carrière.
C'est ça, hein?
Oui. Vraiment. Le spécial de Céline, c'était comme... C'était vraiment extraordinaire. Parce
t'as
que...
eu la chance de la battre dans un jeu, en plus.
En plus. T'sais, voyons. Avec le recul, je me dis, j'aurais pu la laisser gagner. Mais c'est parce que je suis tellement compétitive dans les jeux. J'ai jamais pensé à ça, là. T'sais, laisser ouais. gagner Céline à son propre jeu. J'aurais dû.
Mais c'était drôle. Je l'ai réécouté cette semaine.
Ouais, il est sur YouTube.
Ben oui, ouais. Ben, ça m'a tellement fait rire.
Les gens me l'envoient des fois en disant « c'est arrangé, ça ». Ben non, c'est pas arrangé.
Ouais. Tu sais, on voit que t'es fière. Tu sais, on voit que t'es comme...
Je suis contente,
je vais-tu battre Céline, tu sais?
Ah ouais, ouais, ouais.
À un moment donné,
Il y a un moment où je lève mes voix dans les airs puis je fais... Tu sais, je fais un genre de clin d'œil, là.
Mais elle était bonne joueuse, là. Oui. On voit qu'elle en mettait même.
Oui, puis Céline est très drôle, tu sais. Fait qu'elle est drôle dans ce jeu-là. Là, quand elle disait, peux-tu répéter ta question? Elle est très drôle, là.
Les gens, ils étaient fâchés que tu gagnes. À un moment donné, tu dis, hey,
je me fais huer. Ben oui.
Les gens, ils prenaient ça en
cœur. Je le connais quasiment par cœur parce que c'est un de mes beaux moments de vie, là, tu sais.
Ah ouais. Attends, c'est-tu le spécial qui t'a le plus marqué de la fureur?
Je pense que oui.
Ouais, hein?
Je pense que oui. Ouais. La mienne, ma dernière fureur aussi au Centre Bell, oui. Quand même, c'était majeur, là, tu sais. Mais c'était comme si c'était trop d'émotions pour que je m'amuse à 100%. J'étais trop dans nostalgie, dans tristesse de m'en aller et aussi dans l'espèce d'humilité de « me semble c'est beaucoup, là, tout ça, là, pour mon départ, tu sais. » Mais évidemment, c'est super fin, puis mes collègues te diraient « ouais, mais tu méritais, on t'aimait beaucoup, puis ça a été marquant, la fureur. » Oui, merci. Mais il y avait aussi le prétexte de refaire le Centre Bell, puis de, tu sais, on amassait de l'argent aussi pour... je pense que c'était-tu pour Sainte-Justine? Mmh. Quelque chose de même. On donnait une partie. Je me souviens plus, mais à l'époque, j'avais pas de fondation. Fait que c'était soit Sainte-Justine, soit le diabète, soit le Téléthon des étoiles. Un affaire de même. C'est flou pour moi. Mais je sais qu'il y avait une partie de l'argent qui allait à une cause. Fait que tout ça était un prétexte à faire un gros, gros show puis une grosse finale. Mais je trouvais que c'était beaucoup, tu sais. Parce que ça s'appelait, je pense, la méga fureur de Véro. Un affaire de même. La méga fureur... c'était au Parc Jarry, ça. La méga fureur, c'était celle en blanc. Parce que c'était la première fois qu'on sortait du studio puis il y avait 10 000 personnes.
C'est le ça. Spécial en blanc, il y avait 10 000 personnes?
Ouais.
Aïe.
C'était au stade où ils font la Coupe Rogers.
Mon Dieu.
Ouais. C'est ça.
Aïe.
Ouais, c'était une scène centrale. Il y avait du monde tout le tour. Puis c'était le premier épisode de cette saison-là. Première fois qu'on sortait. Puis c'était la première de la saison. Puis c'était le fin août, début septembre. Il faisait encore beau. Fait que c'était à l'extérieur. C'était magique, là.
Wow.
Ouais. Puis je pense que celle-là, elle s'appelait la méga fureur au Parc Jarry parce qu'il y avait 10 000 personnes. Puis la mienne, je pense que c'était la dernière fureur de Véro. On a fait la même.
Ouais, j'ai pas le nom exact. Puis t'avais une mie aussi, je pense. Le dernier épisode avec Sébastien Benoît, ça se peut-tu pour le 400e de la Ville de Québec? Il me semble que
participé à la dernière. Oui, c'était à Québec.
Oui, c'est ça.
Oui, ben, j'étais là pour l'ouverture puis la fermeture, je crois. J'avais peut-être joué aussi.
Parce que t'as parlé, on
était j'étais dans l'équipe des filles. Puis pendant... Oui, j'étais dans l'équipe des filles. Puis j'avais ouvert avec Sébastien puis fermé avec Sébastien.
C'est ça.
Oui, parce qu'on se disait... si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, c'était Place des grands hommes de Patrick Bruel, puis Ève avait changé les paroles. Puis on disait, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans parce que ça faisait 10 ans. Puis on se disait, à la fin, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, puis on l'a fait, t'sais, on est revenu plus tard. Mais finalement, c'était-tu 20 ans plus tard?
Je pense...
Non, c'était 12 ans plus tard. 2019, la première fois que la fureur est revenue.
Oui, proche de 15.
C'est ça, ouais.
Oh, hey, on est à la fin de l'épisode.
Et ah, déjà?
Il reste très, très, très peu de temps. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que je pense que tu as eu une très grande influence au niveau capillaire au Québec. On s'entend que tu as eu toutes les coupes de cheveux pendant la fureur.
Oui.
Moi, je vais toujours me rappeler de ta coupe, tu sais, Natacha Saint-Pierre, là. Tu sais, que toi, tu as eu Céline a eu, les filles de Mixmania ont eu cette coupe-là, tu sais, qui qui revirent dans le bas.
Oui, bien, c'était pendant que mes cheveux repoussaient. Parce que, tu sais, j'avais coupé mes cheveux très, très, très courts.
Ben oui, j'ai des photos d'un
en 99.
Oui.
Puis ça, c'était la repousse de cheveux. Fait qu'ils nous faisaient pointe au fer plat.
C'est
là,
ça. Ça, oui, oui, oui.
Ça, c'était très, très années 2000, cette coupe-là. Là.
Moi, là, c'est une de mes coupes de cheveux. Dans toute l'histoire des coupes de cheveux, une de mes coupes préférées.
Ah, oh, c'est bien drôle,
ouais.
Ça.
Toi, t'as eu toutes les coupes. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui t'ont dit, ouais, les gens nous demandent souvent la coupe de verrou.
Ah oui.
J'imagine, hein?
Oui, bien, ouais. La pire fois, c'est les cheveux coco-coco, là. Ça, c'était fou, là. Comment, ça n'a pas de bon sens. Je me faisais arrêter dans la rue par les coiffeurs pour me faire dire, hey, je suis plus capable de me faire ce coupe-là. J'étais écœurée, tu
sais. Oh,
ouais. Là, je me suis fait écrire beaucoup, là, quand je les ai coupés.
Oui,
là,
hein, là, ouais. Les gens. C'est ça, tantôt, quand je t'ai dit que tu avais la coupe de cheveux de Amanda dans The Holiday.
J'aime.
C'est Cameron Diaz. Tu as exactement la même coupe.
J'aime.
Magnifique. J'aime tout ça. Hey, ben c'est tout.
Ah, merci,
ça
c'était
fait,
super.
Le tour. Merci beaucoup. Je pense que les gens ils vont être vraiment très, très contents. Je voulais t'offrir un petit cadeau aussi.
Ah.
Oui, parce que l'épisode d'aujourd'hui, il est en partenariat avec les super glissades de Mata.
Oui.
Est-ce que tu sais c'est quoi?
Ben,
t'es-tu déjà allée?
Oui. Non, jamais, mais je connais ça.
Bon, ben là, eux autres...
J'adore les glissades de l'hiver.
Ben eux aussi, ils t'aiment beaucoup. Et là, ils veulent t'offrir 4 accès
pour
toi
et
ta famille, pour pouvoir aller glisser sur toutes les pistes. Cet hiver. Puis on pensait à Louis aussi.
Ah,
parce
oui?
que l'été, c'est un golf.
Ah, ben
oui.
Là, ben
fait que
oui,
là, ils pensent à lui, puis il lui donne 4 accès pour une ronde de golf au Golf Mata. Puis ça a l'air que c'est un des plus beaux clubs de golf au Québec.
C'est tellement niché, gentil.
Oui, ils vous offrent ça.
Ah, mais oui. Merci beaucoup.
Voilà.
C'est vraiment fin.
Puis merci. Pour vrai, t'as été super généreuse. J'ai
merci
tout
à
aimé
toi.
Ce que j'ai appris.
Ah oui, bien, j'espère que je t'ai donné un petit stock que t'avais jamais entendu avant.
Tellement.
Oui.
Tellement.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Puis merci aux gens de continuer d'aimer La Fureur. Puis à travers ton podcast aussi, de continuer de vouer un respect pour notre culture télévisuelle, notre culture populaire au Québec. T'sais, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Puis c'est important de ne pas oublier d'où on arrive. T'sais.
Non, d'entretenir ces souvenirs-là. Ben oui, toi aussi, tu as une émission un peu.
Oui, je t'attendais, c'est ça.
Ouais. Ben oui, sur les souvenirs. Fait qu'on partage cet amour-là.
Oui.
La nostalgie et la culture québécoise.
Merci beaucoup.
Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À bientôt.